Bien, merci. Donc, bonsoir et bienvenue pour cette soirée consacrée à la partie virtuelle de l'économie. Enfin, je ne sais pas si elle est virtuelle, mais ça, on en saura un peu plus, je pense, à la fin de la soirée. Donc, je m'appelle Christian Aubin, je suis professeur à la fac de sciences économiques et doyen de cette même faculté. Et donc, c'est moi qui on a demandé d'accueillir ce soir François Villeroy de Gallo pour cette conférence. Donc, maintenant, il est d'être bref sur son CV, parce qu'il a un CV qui est très long, avec beaucoup de diplômes, beaucoup de choses. Donc, on retiendra simplement qu'il est polytechnicien, inspecteur des finances, qu'il est haut fonctionnaire, donc, et qu'il a collaboré avec un certain nombre de ministres, Pierre Bérégovoy, j'ai vu, Dominique Strauss-Kahn, Sauter aussi, je crois, au ministère d'économie et des finances. Et il s'est reconverti ensuite, et aujourd'hui, il est à la BNP, directeur du réseau France de la BNP. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous lui demanderez après, je pense qu'il saura. Je voudrais aussi remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille pour cette soirée. Et puis je vais tout de suite laisser la parole à François Villeroy pour nous présenter un petit peu ses réflexions sur ce thème qu'est finance, économie virtuelle, crise ou opportunité, hein, puisque on a tous en tête, je crois, dans l'imaginaire collectif, l'idée, espèce d'opposition entre la finance, qui est virtuelle par définition, et puis l'économie réelle, avec souvent, je dirais, dans l'image grand public, la finance, on pense le jeune trader, souvent peu scrupuleux, et puis l'économie réelle, on pense aux travailleurs laborieux, etc. Donc il y a souvent une espèce de connotation un peu négative sur la finance. Je ne partage pas tout à fait ce sentiment-là, mais on en discutera après, mais je vais laisser donc François Villeroy de Gallo nous présenter ses idées sur ce thème.
Bonsoir à vous tous, et puis merci de votre accueil. Alors merci d'autant plus de m'accueillir qu'effectivement j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. Je veux dire, je suis polytechnicien, je vais tout vous avouer, je suis énarque aussi, donc ça fait déjà deux défauts. Et en plus, je suis banquier. Bon. Alors, je ne suis pas trader, quand même, puisque à BNP Paribas, ma responsabilité, c'est effectivement le réseau France, c'est-à-dire c'est ce que vous connaissez, hein, les 33 000 hommes et femmes qui travaillent dans les 2250 agences de BNP Paribas en France, y compris à Poitiers et autour de Poitiers. Donc ça, c'est la banque traditionnelle, hein, celle qu'on connaît sur qui gère votre épargne, qui fait des prêts, etc. Enfin, on va aussi parler de la finance plus moderne. Alors, je mesure que c'est un sujet qui peut apparaître un peu austère pour un vendredi soir. Anne Arnaud, qui organise un magnifique programme, m'a dit que dans la salle d'à côté, il y avait un son et lumière, kaléidoscope, etc. Je vais essayer de ne pas vous faire trop regretter d'avoir choisi cette salle-ci. Elle m'a dit d'ailleurs, c'est pas les mêmes publics qui vont, donc je confirme, puisque vous êtes là, vous n'êtes pas ailleurs. Et je vais essayer de parler de façon simple de sujets qui sont compliqués. Alors je m'excuse s'il y a des grands spécialistes de la finance dans la salle, il y a au moins mon voisin de droite, et il y en a peut-être quelques autres, parce que je vais forcément simplifier le sujet, mais simplifier, ça a la vertu d'aller à l'essentiel aussi, de temps en temps. Je voulais vous dire aussi combien j'étais heureux d'être à Poitiers. C'est une ville où, j'avoue, je ne suis pas venu depuis assez longtemps, près de 20 ans. Enfin, tout français sait que c'est une des plus belles villes de notre pays, une de nos villes maternelles. Il ne doit d'ailleurs pas avoir beaucoup de villes en France où le centre. Il y a pas mal de villes où il y a un centre Pierre Mendès France. Vous n'en avez pas l'exclusivité. Mais des villes où le centre Pierre Mendès France est à portée de pierre d'un baptistère gallo-romain d'un côté et d'une cathédrale du XIe siècle de l'autre, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, Poitiers, c'est ça. Et vous me permettrez d'avoir une pensée aussi pour votre archevêque sortant, Monseigneur Rouet, que j'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre vous, de connaître et qui, je crois, marquait aussi l'histoire de cette ville. Alors, on va se donner, si vous voulez bien, grâce au festival Voix publique, qui s'appelle aussi Festival des agitateurs de sens, je trouve que c'est deux beaux noms. On va se donner une soirée pour lever un peu le nez du guidon dans cette époque si troublée que nous vivons, une époque de crise qu'on a du mal à comprendre, qui peut provoquer aussi la colère, hein, la révolte. Je vous propose qu'ensemble, on essaye d'abord de comprendre, et puis peut-être un peu d'espérer. Est-ce qu'à travers les crises, à travers la finance, à travers cette économie virtuelle, parce que la finance a des aspects réels et a des aspects virtuels, est-ce qu'à travers tout ça, il peut y avoir aussi des motifs de service des hommes et de progrès de l'espérance? J'essaierai de vous dire prudemment pourquoi je crois que oui. Je voudrais faire tout ça aussi avec modestie, parce que comme c'est des sujets compliqués, aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir la vérité révélée, et honnêtement, pas plus les banquiers que les autres. Peut-être que dans la compréhension technique, je peux aider, dans l'espoir pour demain, dans les jugements apportés, je crois qu'il faut être extrêmement, extrêmement modeste. Je voulais juste vérifier que vous m'entendiez tous bien, et qu'en particulier, vous n'aviez pas d'écho, parce que j'ai l'impression... Non ? Il faut toujours parler au fond de la salle à ce moment-là. Quand ça ne va plus, vous faites des grands gestes. Hein. Ça va ? Je suis à bonne distance du micro. Bon, et puis si ça vous va, on va couper à peu près la soirée en deux, c'est-à-dire je vais parler, je pense, trois quarts d'heure. Essayez de ne pas abuser de votre patience. Et puis ensuite qu'on ait un bon temps pour l'échange, les questions que vous pouvez poser, etc. D'autant plus, je le disais, il n'y a pas de vérité révélée en la matière. Toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sont les bonnes. J'essaierai que les réponses soient aussi ouvertes. Alors, le thème qui m'était proposé ce soir, c'est la finance, de point, économie virtuelle, virgule, crise, au pluriel, trois petits points, ou service des hommes. Voilà, ça fait trois parties. Donc, je vais traiter ces trois parties. Économie virtuelle, c'est quoi la finance moderne ? Est-ce que c'est purement virtuel ? Est-ce qu'il y a une part réelle ? Deuxième question, c'est ces crises que nous vivons assez douloureusement depuis 4 ans, crise financière, crise économique, crise sociale et politique, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, dans l'ordre peut-être plus du sens, puisqu'on est au festival des agitateurs de sens, dans l'ordre du pourquoi, service des hommes, en troisième question. Alors, je commence par cette question sur l'économie virtuelle et, au fond, la finance moderne, c'est quoi ? Alors, je voulais simplement vous raconter l'histoire de la naissance de la finance moderne. Elle date des années 80, donc c'est assez récent. Et je vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec la finance, mais qu'on connaît tous, c'est l'évolution du commerce. Et on va prendre un produit assez basique, prenons les pommes de terre. Le commerce de pommes de terre, vous le savez comme moi, il a beaucoup changé depuis les années 60, mais je pourrais dire la même chose de tout produit qui est vendu dans le commerce. On est passé, pour faire très court, de la supérette qu'on trouvait près de chez soi, et qui était assez chère, à des hypermarchés où on trouve tout, qui ne sont plus du tout spécialisés, qui sont à rayon d'action beaucoup plus large, et qui sont nettement moins chers. Alors on peut discuter indéfiniment des avantages de la supérette locale par rapport à l'hypermarché à rayon d'action plus large, mais en gros, je crois qu'on est tous d'accord sur cette description, c'est ça qui s'est passé dans le commerce, et il y a toujours, comme avant, des vendeurs et des producteurs de pommes de terre, les agriculteurs, et puis des acheteurs de pommes de terre, c'est nous, les consommateurs. Bon. Au passage, d'ailleurs, les circuits de la pomme de terre se sont plutôt raccourcis. Il y avait pas mal de grossistes, etc., d'intermédiaires. Il y en a moins qu'avant. Ça va toujours sur la description du commerce ? Non, parce que honnêtement, sur le commerce, j'ai aucun avantage par rapport à vous. Donc, si je décris faux, bon, voilà. Alors, vous direz que je commence à m'égarer par rapport à la finance virtuelle. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'à la base, la finance, c'est un commerce. C'est pas le commerce des pommes de terre, c'est le commerce de l'argent. Il y a des producteurs d'argent. C'est pas les agriculteurs, c'est les épargnants. C'est souvent vous et moi. Hein. Et puis, il y a des consommateurs d'argent, c'est les emprunteurs, c'est ceux qui ont des besoins pour financer leurs projets. Ça peut être les ménages aussi, vous et moi, quand nous avons un projet immobilier, mais plus souvent, c'est les entreprises pour financer leurs investissements et les États pour financer leurs déficits. Voilà. Donc, à la base, hein, ça, depuis que le monde est monde, la finance, c'est le commerce de l'argent avec des producteurs d'argent qui sont les épargnants et des consommateurs d'argent, c'est les emprunteurs. Et puis au milieu, il y a un prix de l'argent, c'est le taux d'intérêt, équivalent du prix du sac de pommes de terre. Alors, il y a diverses qualités d'argent, il y a de l'argent que vous empruntez à 3 mois, à 10 ans, etc. Comme il y a diverses variétés de pommes de terre, donc il y a divers taux d'intérêt, Ça va toujours? Bon, bah, on est presque à la finance moderne. Qu'est-ce qui s'est passé dans la finance moderne? Ce qui s'est passé sur les pommes de terre. Il y avait des supérettes, c'était des banques locales, spécialisées, près de chez soi, hein, où en général on trouvait une catégorie particulière de produits. On trouvait des prêts pour les agriculteurs, on trouvait, ça c'était le Crédit Agricole, on trouvait un livret d'épargne, ça c'était la Caisse d'épargne, on trouvait du financement des PME, ça c'était peut-être plutôt les banques populaires ou le CIC local, etc. Bon. Une banque qui était déjà très bien, c'est la BNP, mais je ne ferai pas trop de pub ce soir. Je ne suis pas là pour ça. Bon. Eh bien, on est passé aux hypermarchés de la finance. Hein ? Qu'est-ce que c'est un hypermarché de la finance ? C'est une très grande surface. On trouve tous les produits de l'argent. J'ai cité divers produits spécialisés jusque-là. Vous trouvez tout. Globalement, c'est moins cher. Et ça, il faut le reconnaître, c'est un des apports de la finance moderne. Les circuits sont beaucoup plus courts. Tout ça a été permis au passage par beaucoup d'informatique et beaucoup de télécommunications. C'est pour ça que c'est une révolution qui est apparue dans les années 80 et pas avant. De ce point de vue-là, on peut dire que la finance est virtuelle, mais c'est quand même de l'argent. Quand votre banque vous vire par informatique de l'argent sur votre compte, vous considérez quand même que vous êtes enrichi. Donc en ce sens-là, je crois qu'on est toujours dans le réel. Il se trouve simplement que c'est de la technique dématérialisée. Hein ? Enfin, il vous arrive de faire des paiements par Internet, vous n'avez pas le sentiment d'être totalement virtuel. Vous faites bien un vrai paiement. Hein. Je crois qu'il faut se méfier un peu par rapport à ça du terme virtuel associé à la technique. Le virtuel, il tient plus à la finalité. Je vais y revenir. Alors, ces hypermarchés de la finance, les hypermarchés qui sont à Poitiers, ils ont un rayon d'action, je crois, qui porte sur une trentaine de kilomètres autour de Poitiers. C'est déjà beaucoup plus qu'avant la supérette, hein, puisque on sait qu'avec l'hypermarché est venu le parking. Les hypermarchés de la finance, eux, c'est beaucoup plus que le rayon d'action de l'hypermarché du commerce. C'est en général un hypermarché mondial. Le commerce de l'argent, il est mondial. Il y a d'un côté l'ensemble des producteurs d'argent, et je simplifie beaucoup, c'est en gros les Asiatiques et un peu les Européens. Et puis de l'autre, l'ensemble des consommateurs, c'est-à-dire les emprunteurs, c'est en gros les Américains et tous les pays qui ont des déficits importants. Alors, il y a des épargnants aussi aux États-Unis, il y a des emprunteurs aussi en Chine. Mais l'image résumée, c'est un circuit mondial de l'argent qui a d'énormes avantages. Hein. C'est là que le parallèle avec l'hypermarché est bien. C'est que comme on met face à face l'ensemble de l'offre d'argent et puis l'ensemble de la demande d'argent, c'est plus efficace et c'est moins cher. Donc, à la base, je le souligne, parce qu'après on va parler de dérive de la finance moderne, il y a bien l'idée d'un commerce de l'argent, dont je crois on est tous conscients qu'il est indispensable, mais qui devient plus efficace avec la finance moderne. Et, alors on pourrait vous dire, là, c'est une espèce de postulat, mais je voudrais un peu vous démontrer ça dans des choses qui vous paraîtront plus proches. Pour les ménages que nous sommes, on a peut-être un peu oublié, mais dans la finance d'avant, là, la banque traditionnelle, qu'on a intérêt peut-être, qu'on a tendance à idéaliser un peu, rappelez-vous, c'était très souvent la ruine des épargnants. Parce que les épargnants, ils avaient le choix que d'un seul produit, c'était le livret d'épargne, et on n'était pas sûr toujours que le taux d'intérêt était supérieur à l'inflation. Maintenant, en général, le taux du livret A est supérieur à l'inflation, parce qu'il se trouve qu'il y a une formule comme ça, mais surtout, si on n'est pas content du taux du livret A, votre banque peut vous proposer plein d'autres produits, puisque c'est un hypermarché où vous trouvez plein de choses. Et un épargnant qui veut protéger de façon sûre son épargne contre l'inflation, aujourd'hui, il est assuré de pouvoir le faire. Il ne l'était pas avant. Je vous donne un autre exemple qui, cette fois-ci, va nous toucher comme contribuables. C'est les États. Grâce à la finance moderne, hein, à ces grands marchés financiers, j'ai parlé d'hypermarché de la finance, c'est bien sûr les marchés financiers que je suis largement en train de décrire. Grâce à cette finance moderne, les États peuvent emprunter moins cher. Alors je vais vous donner un exemple très récent de ça, que d'ailleurs les journalistes, curieusement, n'ont pas beaucoup noté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du grand emprunt. Le président de la République, je crois que c'était au printemps 2009, annonce, et ça s'est d'ailleurs fait, un grand emprunt de 20 ou 30 milliards d'euros pour pouvoir financer des projets porteurs d'avenir. Et à l'époque, tout le monde imagine que ce grand emprunt, comme dans l'histoire de la République française, il va être placé directement auprès des épargnants que nous sommes par les banques que je suis. Hein ? et que ça va d'ailleurs servir à mesurer la popularité du gouvernement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est une grande tradition française. Hein. Ça commence avec l'emprunt tiers en 1871 pour payer les remboursements à l'Allemagne après la défaite de 1870. Et Thiers a fondé sa popularité sur le succès de son emprunt. Après, il y a eu Pinet dans les années 50, peut-être que les plus anciens parmi nous s'en souviennent. Giscard, l'emprunt Giscard, c'est mal terminé, comme on sait. Et puis il y a eu Balladur dans les années 90. Grande tradition française. Hein. Bon. Et donc, on s'imagine qu'il va y avoir l'emprunt Sarkozy qui va servir à ça. Vous n'avez jamais entendu parler de l'emprunt Sarkozy depuis. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on a été chercher l'argent sur les marchés financiers et non pas le placer directement aux épargnants. Le placer directement aux épargnants, c'était la supérette. Hein. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est pas pour faire plaisir aux marchés financiers, c'est pas tellement tendance actuellement. C'est parce que ça coûtait 1% de taux d'intérêt moins cher. Alors, calculer 1% sur un emprunt de 30 milliards, ça fait quand même 300 millions par an. Par an. Avouez que pour nous, contribuables, ça aurait été dommage de se priver des services que rend la finance moderne. Voilà, je dis ça, je vais parler tout de suite après des dérives, mais il y a des choses dans la finance moderne qui sont faites pour rendre des services à l'économie réelle, y compris à nous. Dernière chose, dernier service que rend la finance moderne, c'est la protection contre un certain nombre de risques. Et là, il y a eu des innovations, même époque, hein, dans les années 80, ce qu'on appelle les produits dérivés, terme que vous entendez parfois. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de la technique des produits dérivés, mais qui permettent de se couvrir contre des risques, notamment pour les entreprises. Ça, c'est un apport pour les entreprises. Je prends un exemple que les entrepreneurs présents ici doivent bien connaître, les variations de change. Vous vendez, vous produisez ici et là, dans la Vienne, donc vous avez des coûts de production en euros, mais vous vendez en dollars. Bon. Alors, si le dollar monte, vous allez toucher votre argent dans 3 mois. Si le dollar monte, vous allez gagner, mais si le dollar baisse, vous allez perdre. Pour éviter ce risque, on se couvre, hein, c'est le comportement, le terme technique qu'on emploie. Et pour ça, les produits dérivés permettent aujourd'hui de couvrir le risque de change pas cher. Ça n'existait pas avant, donc c'est un progrès. On pourrait citer d'autres exemples de couverture, la variation du prix des matières premières, par exemple, qui est un sujet de grande difficulté aujourd'hui pour les entreprises. On peut se couvrir à l'avance contre la variation du prix des matières premières, en l'occurrence la hausse. Donc tout ça peut et a rendu des services importants à l'économie réelle. Bon, alors si je m'arrêtais là, on pourrait arrêter la conférence au bout de 10 minutes, mais j'aurais quand même manqué tout ce qui s'est passé après. Mais j'insiste simplement sur le fait qu'on n'oublie pas cette genèse et ses services. Et ces services, ils sont toujours rendus aujourd'hui. Alors, il y a eu des dérives. Et ces dérives ont amené les crises. Alors, avant de parler des crises, je voudrais isoler 3 dérives. Et dans la même période de temps, c'est-à-dire sur les 25-30 dernières années. Vous voyez qu'on parle de phénomènes qui sont assez récents. Première dérive. Et vous allez voir que là, on va arriver dans les racines de la crise et du coup dans les solutions de la crise. La première dérive, c'est qu'au fur et à mesure que se développait la finance moderne, et j'ai insisté sur le fait qu'elle était très internationale, hein, au moins européenne et même mondiale, les grands acteurs de la finance, c'est d'abord les Américains. Au fur et à mesure que s'est développée cette finance moderne, la régulation, pour prendre un mot qui est assez à la mode aujourd'hui, dont on a beaucoup parlé après la crise, la régulation n'a pas suivi. Quand il y a des acteurs sur un marché, et tous ceux d'entre nous qui sont actifs dans la vie économique le savent, il faut un certain nombre de règles du jeu, et puis il faut des autorités qui soient chargées de faire respecter ces règles du jeu. La protection des consommateurs, le droit du travail, le droit de la concurrence, on peut en penser ce qu'on veut, c'est parfois un peu trop lourd, mais on sait tous qu'il en faut. Et ben, au fur et à mesure que la finance moderne se développait, les règles du jeu, elles ne se développaient pas. Pourquoi? Parce que la finance se développait à l'échelle internationale. Elle se développait en plus à toute allure. Hein, ça a été très innovant. Et les régulateurs ne suivaient pas. Parce que les autorités publiques, elles restaient nationales. Et que même à l'échelle nationale, elles avaient un peu de mal à suivre ce qui se passait et à se mettre au niveau technique. Alors tout un temps, on a expliqué que ce n'était pas grave. Notamment aux États-Unis. Hein. Il y a eu une grande école de pensée aux États-Unis, florissante jusqu'à 2007, hein, jusqu'à la crise, qui était la théorie de l'autorégulation. Vous savez, une des grandes banques américaines dont on parle beaucoup s'appelle Goldman Sachs. Goldman Sachs est vu comme le grand visage de la finance moderne. Belle boîte, enfin, c'est aussi un archétype des dérives. Et Goldman Sachs avait, avec d'autres banques américaines, fait partie du lobby de l'autorégulation. Nous, on n'a pas besoin de régulation publique parce qu'on se régule nous-mêmes. On est des professionnels sérieux, on s'applique des règles et il n'y aura pas de dérive. On a vu ce que valait cette thèse. Donc, pas de développement de la finance sans régulation, et donc régulation internationale. Ça, c'est un enseignement, je crois, extrêmement fort, et c'est une des dérives qu'il y a eu avant 2007. Deuxième dérive, c'est peut-être celle qui se voit le plus, la cupidité croissante d'un certain nombre d'opérateurs de la finance, et là, on va retrouver les traders. Alors, je ne crois pas du tout que les traders fassent un métier inutile. J'ai dit le service rendu. Les traders, c'est notamment eux qui font ces fameux produits dérivés ou ces grands emprunts internationaux, etc. C'est des métiers techniquement compliqués. Donc il faut une formation, il y a un stress, etc. Donc il ne faut pas du tout jeter la pierre sur les traders en soi. Simplement, il y a une surrémunération au fil du temps de certains traders qui s'est installée. Je vous donne un exemple. Moi, je suis assez récent dans ce métier, comme vous l'avez dit, parce que j'ai fait 20 ans de carrière dans le service public comme fonctionnaire. Et donc, je n'ai pas vécu la finance des années 90. Mais quelqu'un m'a raconté que dans une banque française, ce n'est pas BNP Paribas, il avait senti la dérive. C'était quelque part au milieu des années 90. Les traders sont rémunérés avec ce qu'on appelle des bonus, c'est-à-dire ils ont peu de salaires fixes et beaucoup de salaires variables versés une fois par an. Donc il y a l'entretien bonus une fois par an, c'est assez important. Ça se passe en général au mois de mars, on est dans la saison des bonus. Mars est aussi le mois du printemps, ce qui est plus sain. Mais la première fois, il me dit, c'était le meilleur trader de la banque, vraiment quelqu'un qui avait beaucoup innové, qui avait rendu des services, qui avait fait gagner de l'argent à la banque, etc. Et il dit... C'est la première fois de ma vie que j'ai annoncé à quelqu'un un bonus de 1 million de francs. 1 million de francs, ça fait 150 000 euros. C'est une somme qui est très importante, mais qui malheureusement, aujourd'hui, est une somme qui est devenue relativement modérée pour bon nombre de traders. Je parle du bonus. Intégrer toujours le fait que le salaire fixe est faible, enfin 150 000 euros, c'est quand même une somme pas négligeable, mais soyons conscients qu'aux États-Unis, en Angleterre et même en France, pour les très bons traders, c'est devenu des sommes faibles. Bon, bref, à l'époque, la première fois qu'il annonce le million de francs, le trader en cause le remercie avec des larmes dans les yeux. C'est un signe de reconnaissance qui était très sensible. Il dit l'année suivante, pas 10 ans après, l'année suivante, je le reçois et je lui annonce qu'il a à nouveau 1 million de francs. Ben là, il est sorti en m'injuriant. Voilà. Il s'était passé quelque chose. Entre-temps, l'échelle des valeurs avait changé. Et je crois que c'est normal que des jobs comme ça soient bien payés. Ça n'est pas normal qu'ils soient surrémunérés dans une compétition mondiale. Il faut bien dire que là-dessus, comme sur beaucoup de choses dont on va parler, l'influence américaine et du système de valeurs américain était très fort. Vous savez que le rapport des Américains à l'argent n'est pas le même que le nôtre. On peut discuter quel est bon, quel est mauvais, mais il y a eu, à coup sûr, une dérive vers la surrémunération et la cupidité croissante. Et puis, troisième dérive, c'est ce qu'on pourrait appeler le développement de la spéculation pure. Alors, je me méfie beaucoup du mot spéculation. Là aussi, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais je vais être très simple. Le mot spéculation, évidemment, il a mauvaise presse. Certains vous expliqueraient à bon droit qu'on a besoin d'un peu de spéculation dans le monde de la finance, pour pouvoir rendre tous les services que j'évoquais tout à l'heure, notamment pouvoir couvrir les risques. Je reprends mon chef d'entreprise de tout à l'heure. Quand il se couvre contre le risque de baisse du dollar, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit prêt à prendre le risque inverse. Et ce quelqu'un, c'est quelquefois un spéculateur. Mais je crois que la dérive, c'est ce qu'on pourrait appeler la spéculation pure, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs de la finance, de banques, se sont mis à prendre des positions, à développer des activités qui n'étaient plus du tout liées aux besoins de leurs clients, même indirectement, mais c'était une forme de finance close sur elle-même, si vous voulez. Et les traders parlent aux traders et ne parlent plus aux entreprises, aux États, à ce qu'on a appelé parfois l'économie réelle. Là, la finance devient virtuelle. Donc vous voyez, la frontière que je mets, ce n'est pas une frontière technique. Je reprends un exemple, quand vous faites un paiement sur Internet, vous n'êtes pas virtuel. Par contre, on est dans l'ordre des finalités. La finance n'est plus là pour rendre des services à ses clients. Elle est là simplement pour générer des profits en tournant sur elle-même. Il y a l'illusion qu'on a inventé une machine à faire des profits indéfinis. Cette illusion, elle s'est brisée dans la crise, et elle s'est brisée très violemment. Alors ça, ces dérives-là m'amènent donc à la deuxième question que j'annonçais, c'est les crises. Ça va toujours ? Alors, sur les crises, là, on va arriver dans l'actualité plus immédiate et sur l'enchaînement douloureux que vous vivez, que nous vivons depuis 4 ans, parce qu'on a l'impression de ne pas en sortir. Alors, je fais l'enchaînement et vous le voyez dans l'actualité comme moi. Crise financière, donne crise économique, donne crise sociale et politique. Et puis vous ajoutez à tout ça, alors quelque chose qui est assez indépendant, c'est les crises internationales de ces derniers mois, qui sont porteurs de certains espoirs. Mais on a le sentiment d'aller de crise en crise, de surprise en surprise, d'incompréhension en incompréhension, de déstabilisation en déstabilisation. Je crois que ça pèse sur nous tous, et peut-être encore plus sur les gens autour de nous. Et quand je dis autour de nous, c'est pas seulement en France, hein. C'est en Europe, c'est dans l'ensemble du monde occidental. Et donc je vous propose simplement qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Je prétends pas du tout lever ce sentiment d'incertitude, de tension qui pèse sur notre pays comme sur l'ensemble de l'Europe. Mais déjà d'essayer de comprendre, ça peut nous donner un peu de sérénité. Et donc je reprends l'enchaînement, crise financière. Et puis je parlerai ensuite de la crise économique et de la crise sociale et politique. La crise financière, on a écrit beaucoup de choses. C'est plus facile maintenant de comprendre ce qui s'est passé. Je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé de faire des conférences de ce type en 2008, fin 2008, début 2009. On ne savait pas très bien où on en était. Donc je risquais des pronostics, des débuts d'explications. Je crois qu'on a maintenant, heureusement, un peu plus de recul. Et on peut ramener la crise financière avant tout à deux genèses qui sont toutes les deux américaines et qui toutes les deux se sont propagées à l'ensemble du monde. La première, c'est cette histoire des subprimes, si vous vous souvenez, en 2007. Alors les subprimes, qu'est-ce que c'est ? C'est des crédits immobiliers. Alors, si on veut le dire de façon très chic, on dit des mortgages, parce que c'est le mot anglais pour... Il y a beaucoup de termes anglais, en plus évidemment jargonnant dans l'incompréhension de la crise. Mais ce sont des mauvais crédits. Subprime, ça veut dire qu'on essaye d'aller prêter à des gens qui risquent de ne pas pouvoir rembourser. Et que pour faire ça, au début, il y a une mensualité de remboursement qui est très faible. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, la mensualité va monter. Et la rationalité apparente du mécanisme, c'est de dire, mais c'est logique que la mensualité monte parce que, en fait, vous allez devenir de plus en plus riche parce qu'au fur et à mesure du temps, la valeur de votre bien va monter. C'est ça la seule justification des subprimes. Hein. Les prêts immobiliers aux États-Unis étant en gros indexés sur la valeur du bien, ce qui n'est pas le cas en France, hein, où on regarde plus le revenu et le budget des emprunteurs. Je relève au passage que pas une banque française n'a fait un seul crédit subprime. Vous n'avez jamais entendu parler de subprime en France et je crois qu'on peut en être heureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces subprimes ? Ils se sont développés extrêmement vite. Ensuite, le marché de la valeur des biens immobiliers s'est retourné, parce que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et brusquement, des tas de gens qui étaient rentrés dans la seringue des subprimes ont été pris à la gorge par la baisse de leur valeur de leurs biens. Mais il y a eu autre chose, en plus. C'est que ces subprimes, ils ont été pour la plupart vendus, distribués, non pas par des banques, mais par des courtiers, ce qu'on appelle des brokers, vous avez peut-être lu le terme aux États-Unis, et qui ont vendu ces subprimes, ont touché au passage des commissions assez grasses, on retrouve la cupidité, mais n'ont pas gardé le risque. Une banque, elle vous vend un crédit immobilier, mais ensuite, je peux en témoigner, elle garde le risque. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va s'occuper en général de vous faire payer. Là, les courtiers, ils ont revendu le risque. Et là, vous retrouvez un mot que vous avez peut-être entendu, c'est la titrisation. Hein ? Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail technique de la titrisation, mais c'est une assez belle technique, la titrisation, comme beaucoup des techniques, et qui, là, a été un peu dévoyée par les courtiers, parce qu'ils savaient qu'ils avaient vendu des crédits pas très bons, mais à coup de titrisation, en découpant leurs crédits en petits bouts, en les recollant, en faisant bénir tout ça par des agences de notation, bon, ils ont réussi à faire croire que c'était un bon produit. Et ils ont revendu ça à l'ensemble du système financier mondial, aux banques américaines, mais pas seulement américaines, aux banques européennes, aux banques asiatiques, etc. Et résultat, ben, quand ces crédits sont devenus de très mauvaise qualité, retournement du marché américain, on s'est aperçu qu'il y avait du risque qui s'était diffusé dans l'ensemble du système bancaire mondial. Première dérive. Je vais prendre un exemple, un parallèle qui n'a rien à voir avec la finance, mais qui est l'industrie automobile, qu'on connaît mieux. Imaginez, alors, que je vais prendre, je prends Renault ou Peugeot, on va peut-être prendre Citroën pour changer un peu. Imaginez que Citroën, la Picasso a été vendue, et puis on s'aperçoit que sur une série de Picasso, il y a un défaut sur le frein à main. C'est une situation assez classique. Que fait Citroën? Il rappelle la Picasso pour changer le frein à main. Bon. La situation devient un peu plus compliquée compte tenu du marché de l'occasion. C'est-à-dire que si les Picasso qui ont été vendus par les concessionnaires ont été entre-temps revendus à d'autres acquéreurs, les concessionnaires ont un peu de mal à savoir où se trouvent les Picasso défectueuses. Ce qui s'est passé avec la titrisation, c'est imaginer un marché de l'occasion qui a fonctionné deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On ne sait plus où est la voiture, on ne sait plus où est le risque, et du coup, plus personne n'a confiance. C'est ça qui s'est passé en 2007. Et puis arrive 2008, autre phénomène également américain, le 15 septembre 2008, vous vous en souvenez, ça c'est une date de l'histoire financière mondiale, faillite de grande banque américaine, Lehman Brothers. C'est un événement encore plus important que le précédent, même s'il est la conséquence du précédent. C'est la première fois depuis 1929 qu'une grande banque faisait faillite. Et on savait depuis 1929 que c'était très grave, une banque qui faisait faillite. Pourquoi c'est très grave? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde commence à se demander s'il n'y a pas une autre banque qui va faire faillite. Et je parlais de la montée de la défiance lié à cette fameuse titrisation. Mais là, la défiance, elle est montée au centuple, dans les semaines qui ont suivi le 15 septembre. Plus aucune banque n'a voulu prêter à une autre banque. Bon, ça vous paraîtra peut-être pas très grave. En fait, c'est extraordinairement grave. C'est extraordinairement grave parce que les banques ont besoin de se prêter entre elles, ce qu'on appelle la liquidité bancaire, pour pouvoir vous faire crédit. Parce qu'aucune banque n'a immédiatement l'argent qu'il faut. Il y en a qui ont un peu trop, il y en a qui n'ont pas assez. Et donc, elles se prêtent de l'argent entre elles pour pouvoir financer leur crédit à l'économie. Et là, tout à coup, le crédit risquait de se trouver paralysé. Par ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, ça a peut-être été votre cas à vous, dans les jours qui ont suivi la faillite de Lehman, beaucoup de déposants se sont inquiétés aussi. Et se sont demandé s'ils pouvaient continuer à déposer à leur agence habituelle, ou si leur agence, elle allait faire comme Lehman, c'est-à-dire faire faillite. Donc on aurait pu avoir une panique. Heureusement, ça a été sauvé par une action très vigoureuse des pouvoirs publics, notamment la France, qui à l'époque présidait l'Union européenne, et le plan, vous en souvenez peut-être, de la mi-octobre 2008, un sommet de l'Élysée, une action résolue du président de la République, quelles que soient les qualités et les défauts qu'on lui prête. Mais là, dans la crise, la France et l'Union européenne ont vraiment fait ce qu'il fallait pour ramener la confiance dans les banques. Alors, où on en est aujourd'hui de cette crise financière? Il y a un assainissement partiel. Je ne prétends pas qu'il soit complètement terminé, mais je crois qu'en ce qui concerne les banques françaises et la plupart des banques européennes, aujourd'hui, leur situation est solide, mais il y a eu une purge assez forte. C'est vrai aussi de la plupart des banques américaines. Alors, il reste des pays plus fragiles. On a beaucoup parlé de l'Irlande, un peu de l'Espagne, où l'assainissement des banques n'est pas terminé. Mais en gros, on est sur le bon chemin. Et on a élaboré, j'y reviendrai, des règles beaucoup plus strictes de surveillance des banques, de solidité des banques. Donc la fameuse régulation qui manquait, là, vous vous souvenez, cette première dérive, on a commencé très sérieusement à y répondre. Crise financière entraîne crise économique. Alors ça nous est encore plus familier, mais la grande crainte qu'on a eue en 2008-2009, c'est de se trouver avec une crise aussi grave qu'en 1929. 1929, je le disais, faillite bancaire, on n'en avait pas connu depuis. Et malheureusement, on le sait de par l'histoire, quand on peut aimer ou ne pas aimer la finance, mais il y a une loi à peu près établie, c'est que quand la finance et la confiance vont mal, l'économie va mal. pour toute une série d'enchaînements mécaniques, je ne rentre pas, mais cette corrélation, elle est extrêmement forte. Et donc, le grand risque qui existait, c'était qu'on ait les mêmes conséquences que les faillites bancaires de 1929, c'est-à-dire la Grande Dépression. Et heureusement, on n'a pas eu ça. Ça, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, mais si nous nous étions vus il y a 2 ans, c'était un grand point d'interrogation. Il ne faut pas oublier ça. Il faut se rappeler un chiffre qui est extrêmement spectaculaire. Entre 1929 et 1933, aux États-Unis, les 4 premières années de la crise, le PIB, le niveau de richesse produite, a reculé de 40% aux États-Unis. Là, on a eu en 2009 la plus forte récession de l'après-guerre, mais la récession, elle a été entre 2 et 5% selon les pays. 2% en France et 5% plus fortement en Allemagne, par exemple. Et on est reparti en croissance dès 2010. Pourquoi est-ce qu'on a évité la reproduction de la Grande Dépression de 1929? Eh bien, justement, parce qu'on avait retenu les leçons de 1929. Et le grand économiste de cette crise-ci, ça a été celui qui avait dit a posteriori ce qu'il aurait fallu faire en 1929, c'est Keynes. Alors, Keynes, c'est l'aspirateur des Keynésiens, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, mais c'est un Anglais assez génial, et qui le premier, en 1936, dans un livre resté assez célèbre dans l'économie, qui s'appelle « La théorie générale » de Keynes, a dit ce qu'il aurait fallu faire en 1929 pour éviter la Grande Dépression. Et donc, ben, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, surtout si on vivait aux États-Unis, ont payé très cher le fait qu'on n'ait pas su quoi faire à l'époque, mais nous avons bénéficié des erreurs du passé, parce qu'on a fait cette fois-ci exactement ce qu'il fallait faire pour éviter la récession. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, du côté des gouvernements, des politiques budgétaires très actives de soutien à l'économie. Ça consiste à relancer les dépenses publiques, avec notamment des grands programmes d'investissement, certaines baisses d'impôts, à creuser les déficits, du coup, mais il le fallait, hein, pour éviter la Grande Dépression. Et puis du côté des ce qu'on appelle les autorités monétaires, c'est-à-dire les banques centrales, à baisser beaucoup les taux d'intérêt auxquels elles financent les banques et l'économie. Et les taux d'intérêt des banques centrales sont aujourd'hui extrêmement bas. Les banques centrales, c'est pour nous la Banque Centrale Européenne, hein, dirigée par le Français Jean-Claude Trichet, la Banque de l'euro. Son taux est à 1%, et on n'a jamais eu des taux aussi bas. Aux États-Unis, ils ont même fait encore plus bas, c'est la Federal Reserve qui est à 0,25. Alors tout ça a créé des déséquilibres. C'est des remèdes de cheval qu'on a mis sur l'économie, et ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Mais il fallait absolument administrer ces remèdes de cheval, la stimulation budgétaire, la baisse des taux d'intérêt, pour pouvoir éviter une récession économique trop lourde. Alors, on arrive à la crise sociale et politique. Là, je serai plus rapide. Je crois que nous la constatons tous autour de nous. Elle est d'abord liée à la montée du chômage, bien sûr, entraînée par la récession économique de 2009. Le chômage en France a remonté un peu, mais malheureusement, il était déjà très élevé. Donc on est à un peu plus de 9% de taux de chômage. Ce n'est pas le taux de chômage le plus fort qu'on a eu dans notre histoire. On a eu, malheureusement, dans les années 80-90, souvent un taux de chômage supérieur à 10%. Mais 9%, c'est encore beaucoup trop. Et en particulier, le chômage des jeunes à 23%, ça, ce n'est pas possible. Je pense que tous ceux parmi nous qui sont parents ou grands-parents peuvent se faire du souci pour la capacité des jeunes à trouver vite un emploi. Mais ça n'est rien à côté de ce qu'est la situation américaine. Les Américains ont aujourd'hui le même taux de chômage que nous, à 9%. Alors vous pourrez dire pourquoi c'est plus grave aux États-Unis. C'est plus grave parce que ça ne leur était jamais arrivé. Depuis le début de ce qu'on avait appelé les chocs pétroliers dans les années 70... À l'époque, il n'y avait pas de chômage. Au début des années 70, on était à 2 ou 3% de taux de chômage. C'était le plein emploi, en Europe et aux États-Unis. Depuis 40 ans, le taux de chômage aux États-Unis, en gros, avait toujours été 2 fois inférieur au taux de chômage français. Aujourd'hui, il est le même. Donc l'effet de la crise aux États-Unis a été absolument dramatique. Et pourquoi c'est aussi plus grave que chez nous? Parce qu'ils n'ont pas le système de protection sociale que nous avons. Vous savez, ce modèle français ou européen qui avait été tellement décrié par les Américains, il a quand même d'immenses vertus d'amortisseur économique et surtout de protection des plus faibles quand il y a une crise grave comme ça. Et pour les Américains, avoir 9% de taux de chômage, c'est extrêmement grave. Et là, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin pour voir les difficultés de l'équipe Obama et sa défaite électorale très forte de novembre dernier. Le deuxième élément de crise politique, c'est qu'il y a eu les tensions de l'après-crise. Parce que maintenant, la croissance revient progressivement, pas assez vite. Mais au fur et à mesure que la croissance revient en Europe, il faut résorber les déséquilibres dont je parlais, les remèdes de cheval. Donc commencer à diminuer les déficits pour arriver un jour à diminuer la dette et puis s'occuper de remonter progressivement les taux d'intérêt qui étaient descendus extrêmement bas. Alors ça, c'est le problème actuel de la zone euro. Et notamment de ce qu'on appelle les pays périphériques, c'est-à-dire les pays qui étaient les plus fragiles, la Grèce, l'Irlande et maintenant le Portugal dont on parle cette semaine. Heureusement, je crois que l'Europe a bien répondu là-dessus et qu'il y a une solidarité européenne qui s'est mise en place pour essayer d'aider, de financer, avec des taux d'intérêt favorables, ces États qui sont les plus en difficulté. Mais ça reste très compliqué. D'abord parce qu'il y a certains États qui, pour des raisons de fierté politique, refusent cette aide européenne. Vous avez vu que c'est le problème du Portugal ces derniers jours. On est dans une situation très paradoxale. D'habitude, c'est un pays en difficulté qui demande l'aide de ses voisins et ses voisins se font un peu prier. Vous avez vu ce qui se passe avec le Portugal. Tous ses voisins, ils disent « mais on est prêt à vous aider, à des conditions favorables, demandez-nous ». Et le Portugal dit « non, je ne veux pas demander ». C'est un peu compliqué, j'espère que ça va se régler. Quand cette aide se met en place, il faut quand même un programme d'économie et de redressement budgétaire, parce qu'un pays ne peut pas vivre indéfiniment au-dessus de ses moyens. Et ça, par exemple, c'est les difficultés de la Grèce. Les déficits de la Grèce, au passage, ils étaient nés bien avant la crise financière. La crise financière les a amplifiés, mais c'est un pays qui vivait au-dessus de ses moyens. C'est douloureux de se serrer la ceinture. Et puis pour finir sur la crise politique, mais c'est toujours délicat de faire des commentaires politiques entre les deux tours des élections cantonales dans un pays, donc je vais être d'une grande sobriété. Je crois qu'un peu partout, et pas seulement en France, la crise a généré un sentiment de perte de contrôle des politiques, qui est assez injuste parce que les politiques ne sont pas à l'origine de cette crise. Mais voilà, il y a eu le sentiment, même s'ils ont plutôt bien réagi, je le disais tout à l'heure, mais il y a eu le sentiment peut-être d'impuissance des politiques. Et vous regardez ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe d'une certaine façon en Allemagne, a fortiori en Italie. Enfin, partout, les gouvernements en place, quelle que soit leur couleur politique, sont beaucoup plus impopulaires qu'avant la crise. Que dire de tout ça? Et ça va m'amener à ma dernière partie. C'est que je crois que les crises appellent certes des réponses techniques, dans l'ordre financier, mais elles appellent aussi des réponses politiques dans l'ordre de la régulation et de la coopération internationale. Et donc j'arrive au dernier mot qui m'était proposé, le service des hommes, et à ma troisième question, est-ce que la finance peut être au service des hommes? C'est la question du sens, du pourquoi et peut-être du pour qui de la finance. Alors là, si vous permettez, je vais changer un peu de registre. Je ne vais plus être dans le registre de l'explication, comme j'ai essayé de la partager avec vous jusque-là. Je vais rentrer dans le registre de la conviction, qui est une conviction plus personnelle, que je ne vous demande pas de partager, qui est une conviction aussi de chrétien, parce que c'est la foi et l'espérance que j'essaye de vivre, très imparfaitement, mais aussi dans mon travail de dirigeant et de banquier. Si certains d'ailleurs voulaient un peu approfondir cette dimension, je vous ai apporté un livre, que je trouve un très bon livre, ça s'appelle « Valeurs sûres ». Et c'est d'un financier, mais d'un financier anglais. Vous voyez, c'est encore pire qu'un banquier français. Il s'appelle Stephen Green, G-R-2-E-N. Et c'est l'ancien président de HSBC, qui est une très grosse banque européenne et asiatique. Il était en même temps pasteur anglican. C'est intéressant d'être les deux à la fois. Il est toujours pasteur anglican, mais il n'est plus président de HSBC. Il est maintenant un des ministres de M. Cameron, le premier ministre britannique. Et c'est un livre qui n'est pas du tout technique, mais où il essaye de réfléchir avec son engagement économique, avec sa culture humaine, et c'est très agréable, c'est un anglais ouvert sur le monde, avec sa foi chrétienne, à ce qui s'est passé. Et je crois que c'est un livre auquel on peut prendre beaucoup de plaisir et de sens, c'est chez Parole et Silence. Qu'est-ce que je voudrais dire avec mes mots à moi sur ma foi et mon espérance dans ces crises et puis face à l'avenir de la finance, parce que il faut bien sûr que ces crises servent à changer la finance, à garder ses qualités que j'évoquais au début, mais à corriger ses dérives. Je voudrais d'abord dire un mot de la foi. Alors, vous pourrez penser que là, je fais un saut un peu brutal. La foi, c'est la confiance. Pourquoi j'en parle ? Parce que je crois qu'à travers toutes ces crises, et c'est vrai aussi pour des hommes de bonne volonté, pas nécessairement chrétiens, c'est la vertu qui risque de manquer en premier. Dans une crise qui est d'abord une crise de la peur, une crise de la défiance. Je l'ai dit tout à l'heure, les financiers se méfient désormais les uns des autres. C'est ce qui s'est passé après les subprimes et après Lehman. Les entreprises ont peur ou ont eu peur de ne plus avoir de clients ou de crédits et ont dû parfois couper par anticipation leurs investissements. Les électeurs n'ont plus confiance dans leurs dirigeants politiques. Et puis les Français et les Européens peuvent avoir peur les uns des autres. On la sent, cette peur autour de nous, et il n'est pas illégitime que ces crises compliquées, à répétition, les nourrissent. Alors je pense que l'homme de bonne volonté au travail aujourd'hui et le chrétien, ce pourrait être d'abord quelqu'un qui, tout en étant lucide, refuse de se laisser dominer par la peur. Il reconnaît la réalité de la crise. Il essaye d'en dire la vérité, y compris ce qu'il ne sait pas. Il faut être modeste. Mais pour demain, il garde confiance. Il garde confiance pour lui. Il garde confiance dans les autres. Parce que, pour le chrétien, il garde confiance en Dieu. Et je crois que pratiquement, dans notre vie au travail... Je ne sais pas si certains d'entre vous s'y retrouveront avec moi. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je dis au passage, j'ai une immense admiration pour les chefs d'entreprise et j'en rencontre beaucoup parmi nos clients qui ont traversé cette crise extraordinairement difficile en tenant la barre, en affichant leur confiance, en gardant leurs salariés. Je crois que notre devoir de confiance, c'est d'essayer d'amortir ses propres craintes pour... diffuser de la sérénité, c'est de continuer à favoriser toutes les opportunités de croissance et de développement, c'est de continuer à faire confiance à ses collaborateurs, même si dans les temps de crise et de difficulté, les contrôles sont encore plus indispensables qu'avant. Puis j'ai dit que j'avais aussi mon espérance, et je termine par là. Alors là, vraiment, on pourrait se demander ce qu'elle a à voir ici, hein, dans toutes ces difficultés dont nous nous serions tous bien passés, c'est clair. Certes, mais l'Église, et pas seulement elle, nous invite toujours à lire les signes des temps et à y scruter ce qui peut être promesse du royaume et promesse pour l'avenir. Alors je vais vous dire mes espérances à moi, et vous allez retrouver un peu ce que je disais au début, sur des fruits possibles de ces crises, des choses qui demain ne seront plus comme hier, et seront mieux qu'hier. Alors je vous en propose trois. La première, c'est une espérance dans la coopération internationale. C'était un des grands manques de la finance moderne. De façon générale, dans la mondialisation, au-delà même de la finance, dans un monde qui est de plus en plus interdépendant, beaucoup de sujets appellent une réponse coordonnée, une réponse politique, au moins européenne et mondiale. Qu'est-ce qui s'est fait depuis 3 ans ? Il y a eu le fameux G20, vous vous souvenez peut-être, la première réunion à Washington fin 2008, et puis le sommet de Londres, dont on avait beaucoup parlé en avril 2009. Le G20, en soi, c'est déjà un grand progrès, puisque c'est plus seulement le club des pays riches, on a fait rentrer les grands pays émergents. Et ce G20 a fixé un programme d'action extrêmement ambitieux, d'abord pour traiter la crise et puis pour essayer de reconstruire des règles du jeu après. En particulier, il a confié à des spécialistes, les banquiers centraux, les spécialistes de la régulation, la tâche de fixer des règles de sécurité qui soient beaucoup plus fortes pour le comportement des acteurs de la finance à l'avenir. Alors ça s'appelle Bâle 3. Je ne sais pas si vous avez parfois lu ce terme. On peut se demander, Bâle 3, ça fait bizarre. Hein. Pourquoi Bâle 3 ? Parce que les spécialistes dont je parle, là, les régulateurs, ils se réunissent à Bâle. C'est des banquiers centraux, c'est le comité de Bâle. La Suisse, c'est toujours un pays pour les banques. Ça. Enfin, en même temps, Bâle, c'est près de la France, c'est près de l'Allemagne. C'était assez acceptable par tout le monde. Et il y avait eu des réunions précédentes. Il y a eu un Bâle 1, des premières règles qui n'ont pas été suffisantes. Il y a eu un Bâle 2. C'était déjà des progrès qui a été appliqué en Europe, mais pas aux États-Unis. Bon. Et là, Bâle 3, c'est, cette fois-ci, on rigole plus du tout, si vous me permettez. Plus jamais ça. Et donc, les règles ont été extrêmement renforcées. Hein. Si d'ailleurs, j'étais dans une conférence officielle ce soir et je vous parlais au nom de BNP Paribas, je vous dirais que même du point de vue de banques sérieuses, on trouve qu'on y a été un peu fort dans le renforcement des règles de sécurité. Mais ce n'est pas notre débat de ce soir. Soyez tous certains, en tout cas, que sur la solidité des banques, je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de crise demain, mais les règles de sécurité sont beaucoup plus fortes qu'avant. L'enjeu maintenant, c'est qu'elles soient appliquées par tous. Elles vont être appliquées par les Européens, je n'ai aucun doute. Elles vont être appliquées par les Américains, j'espère. Si vous me permettez, j'aime beaucoup les États-Unis, mais une petite pique anti-américaine. Les Américains ont une grande spécialité dans l'histoire économique récente, là, des 50 dernières années. Les crises financières, parce qu'il y en a eu avant, moins grave, ça naît toujours aux États-Unis, ça s'exporte dans le monde entier. Ensuite, les Américains nous expliquent comment il faudra faire pour éviter la prochaine crise. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et puis, quand on s'est mis d'accord sur les règles, ils disent « Ah, by the way, on a oublié de vous dire une petite chose, c'est que nous, on ne pourra pas l'appliquer. On ne pourra pas l'appliquer. On aimerait beaucoup, parce qu'on a participé à la discussion, mais le Congrès, vous savez ce que c'est voilà, il n'est pas de la bonne couleur politique, puis il faut mettre tout le monde d'accord, c'est pas possible. Bon. Je pense que là, la crise a été tellement grave que les Américains, ils ont d'ailleurs commencé, seront obligés de renforcer leurs règles, mais il faudrait qu'ils appliquent les mêmes règles que les autres. Ce qui a été aussi, même si on peut juger que ça n'a pas été assez loin, c'est le fameux sujet de la rémunération des traders. Les traders gagnent toujours beaucoup d'argent, et on peut porter les jugements qu'on veut là-dessus, mais la part qu'ils touchent immédiatement en cash, hein, est beaucoup moins forte qu'avant, et l'autre partie est différée et conditionnelle. Voilà. On peut dire c'est le verre à moitié plein, c'est le verre à moitié vide, mais là, il y a des choses qui ont changé quand même significativement. Donc, première espérance, la coopération internationale. Deuxième espérance, c'est essayer de retrouver plus de solidarité. Et je pense que c'est une valeur qui, on sait qu'il y a une montée de l'individualisme hein, forte dans nos sociétés, elle n'a d'ailleurs pas du tout disparu, mais je crois que retrouver plus de solidarité dans nos entreprises, entre les citoyens, plus de sobriété dans les rémunérations, je viens de parler des traders avec prudence, c'est une des réponses indispensables au sentiment d'injustice extrêmement fort qui existait avant la crise et que la crise a, à certains égards, renforcé. Enfin, troisième espérance, donc coopération internationale, solidarité, troisième espérance, retrouver plus de finalité, de sens, de pourquoi. Quand j'ai parlé des dérives de la finance, j'ai parlé à un moment d'une finance qui tournait sur elle-même, dont la seule finalité, c'était devenu le combien, c'est-à-dire combien de profits. Il faut retrouver le pourquoi, dans une économie qui, en plus, était beaucoup trop court-termiste. Quand on idéalise le profit à court terme, bah, c'est la tentation d'essayer de faire des gains faciles, rapides, ça se termine mal. Ça, c'est une loi absolue de la finance. Il n'y a pas durablement des gains élevés sans avoir des risques élevés. Si un jour une banque, quelle qu'elle soit, vous propose un produit sûr à rendement élevé sur la durée, elle ment. Elle ment. Et je crois que si beaucoup s'étaient rappelé cette règle ultra simple, qui est que si on vise des rendements magnifiques sur la durée, c'est qu'on prend ou on fait prendre des risques beaucoup trop élevés. On a perdu de vue la finalité. On est dans l'illusion du combien. Et je crois que rien ne remplacera l'objet social d'une entreprise. Pourquoi elle est faite? Quel service elle rend? Bien sûr, elle est faite pour faire des profits et pour être efficace économiquement, parce que sinon, elle ne survit pas. Mais elle est faite au moins autant pour rendre un service à ses clients et à travers ça à la société. Rien ne remplacera non plus le projet collectif d'une société. Attention au court-termisme et au déficit de finalité, aussi dans nos discussions politiques. Vous pouvez associer à tout ça. Enfin, je vais prendre l'exemple le plus anodin qui soit. J'adore la façon dont les journalistes commentent la couleur des cravates ou la virgule dans la dernière petite phrase, mais honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le projet collectif que nous voulons. C'est normal que nous ayons des débats forts là-dessus. Les élections, ça sert à ça. Mais il y a une espèce de dérive court-termiste et superficielle de notre débat médiatique qui, à certains égards, n'est pas si différente de la dérive court-termiste et amplificatrice de la finance dont j'ai parlé. C'est deux mondes différents. Si vous dites à un trader et à un journaliste politique qui se ressemblent, ils prennent chacun ça pour une injure atroce. Mais la logique de fonctionnement court-termiste et ayant perdu le pourquoi est forte. Il y a d'ailleurs une leçon rassurante de la crise, c'est que les banques qui ont le moins mal résisté à la crise sont en règle générale celles qui étaient restées le plus fidèles à leurs clients, à leur métier de base, à une certaine modestie, et qui n'avaient pas cherché à développer la poudre de perlimpinpin ou le profit facile de court terme. Alors je termine par une citation de l'Évangile, si vous me le permettez. D'une petite phrase qui m'a toujours frappé. Elle est notamment dans Matthieu au chapitre 9. Vous pourrez dire que là je suis parti extrêmement loin de la titrisation et des subprimes, mais... Enfin, je m'autorise, c'est ma dernière minute. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles, car elles étaient fatiguées comme des brebis sans berger. Je trouve que c'est une phrase d'une actualité incroyable, en France, mais pas seulement en France. Et je pense que cette fatigue occidentale, contemporaine, elle tient moins à l'excès de charge qu'à l'insuffisance de sens. Et je crois que c'est notre responsabilité, chacun à notre place, alors particulièrement aux dirigeants économiques dont je fais partie, aux dirigeants politiques, mais aussi chacun à notre place, comme citoyen, comme chrétien, comme membre de la famille ou des collectivités dans lesquelles nous sommes. C'est notre responsabilité à chacun d'essayer de remédier un peu à cette insuffisance de sens. Et de ce point de vue-là, votre festival des agitateurs de sens, c'est formidable. Merci. Il en faut un pour la salle, oui. Peut-être, non?
Je pense, oui, mais on va peut-être faire circuler le. Merci pour cette brillante et convaincante, en plus, conférence avec un élément de conviction sur la fin tout à fait, je dirais, stimulant pour moi. Alors, on va peut-être d'abord voir, est-ce qu'il y a une première question dans la salle, ou... Oui. Bon, alors je vais pas monopoliser. Il y a déjà trois premières questions. La première que j'ai vue, elle était devant, donc je vais commencer.
Oui, merci pour votre intervention. Je voulais connaître votre sentiment sur les agences de notation. Est-ce qu'elles vous semblent fiables? Est-ce qu'elles vous semblent transparentes? Est-ce que, d'après vous, elles n'ont pas, au contraire, exacerbé les tensions financières?
On peut peut-être prendre les trois.
C'était la même.
C'est plus tant qu'il y avait quelqu'un dans le fond.
Ah ben, on reviendra sur la cupidité.
Moi, j'ai trouvé votre exposé très clair, et moi qui ne suis pas du tout ni financière ni bancaire, ça m'a beaucoup plu. En revanche, ce qui m'intéresse et qui m'interpelle, vous n'avez pas parlé de la moralisation des crédits revolving, par exemple, dans les banques, des sociétés de crédit, qui plombent le budget des ménages, en particulier, qui conduit à tous ces dossiers de surendettement.
Je vais peut-être... répondre à ces deux questions, puis on reviendra après. Alors j'ai parlé à un moment des agences de notation, mais très vite, à propos de leur dérive sur la titrisation. puisque, alors pour ceux d'entre vous qui connaissent moins le système des agences de notation, ben ils sont là pour mettre des notes sur les emprunteurs ou sur les crédits. Et les notes, alors c'est pas sur 20, c'est par un système de lettres. Et donc c'est ce dont vous entendez parler, y compris maintenant dans les grands médias. La meilleure note, c'est triple A. Ensuite, vous passez double A+, double A, double A-. Enfin, on descend assez lentement les notes, mais chaque baisse de note, alors là aussi, on emploie le terme anglais, c'est le notch. Chaque baisse de notch est un drame parce que c'est censé vous coûter plus cher en taux d'intérêt. Bon. Alors, on a énormément reproché aux agences de notation d'avoir noté triple A ou très haut toute une série de saloperies. Bon, les paquets là, de subprime qui avaient été regroupés. Et honnêtement, elles n'avaient pas fait leur boulot là-dessus. Et puis sur les États, de dire qu'elles ont mis beaucoup trop longtemps des notes beaucoup trop élevées à des pays qui avaient des déficits trop importants. Et d'ailleurs, vous notez qu'elles sont en train d'essayer de se rattraper parce que maintenant, elles dégradent les États à toute allure. Alors un jour, c'est l'Espagne. Le lendemain, ça menace d'être l'Italie. Et puis un jour, la France est encore triple A, hein, comme l'Allemagne. Mais il y a plusieurs pays de la zone euro qui ne sont pas triple A. Et donc, voilà, elles ont eu un excès d'optimisme qui a contribué à la bulle de la finance. Et maintenant, on les accuse d'avoir un excès de sévérité. Alors, c'est un sujet compliqué. Les agences de notation, je voudrais peut-être juste dire deux choses là-dessus. La première, c'est que je crois qu'elles ne sont pas les seules responsables de la crise. Cette crise, elle fait système. J'ai essayé de la présenter de la façon la plus simple possible, mais on pourrait en parler une heure, deux heures, une journée. Enfin, si vous voulez, on passe la nuit, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Il y a des responsabilités des acteurs financiers, notamment américains. Il y a des responsabilités des agences de notation. Il y a des responsabilités des régulateurs qui n'ont pas assez exercé leur métier de surveillance. Et puis, soyons honnêtes, il y a de temps en temps des responsabilités des clients que ça arrangeait bien, tout ça. Hein ? Parce qu'on avait l'impression que tout ce système, c'était merveilleux, il permettait de financer les déficits pas chers. La Grèce ou l'Espagne, ils trouvent très désagréable d'être moins bien notés aujourd'hui, mais enfin, ils trouvaient très bien le système avant. Hein. Bon, voilà. Il faut simplement que chacun, avant de pointer vers les autres, ce qui est la tendance de tout le monde, y compris peut-être des banques françaises, mais reconnaisse sa part de responsabilité et ce qu'il a à changer lui dans son comportement. Ça, je crois que c'est une conviction assez forte sur la crise. Ma deuxième conviction à propos des agences de notation, qui ont une part de responsabilité, même si elles n'ont pas la seule ni la principale, je crois, c'est que le problème avant tout, c'est la situation de monopole, et comme je crois, vous connaissez bien le sujet. En gros, on a à l'échelle mondiale 3 agences et même 2,5. Il y en a 2 qui sont importantes, c'est Standard & Poor's et Moody's, dont vous entendez souvent parler. Puis il y en a une troisième un peu moins importante, qui est d'ailleurs européenne, les 2 premières sont américaines, qui s'appelle Fitch. Et évidemment, juger, c'est comme noter une copie, hein, juger la qualité d'un crédit, ce n'est pas une science exacte. Hein. Il y a des tas de choses qui peuvent compter, il y a des évolutions qui peuvent intervenir. Et donc je crois qu'on a vraiment intérêt à introduire un maximum de diversité dans le sujet, ça relativisera leur pouvoir et ça relativisera leurs erreurs. Ça, c'est la piste assez prometteuse. Il reste que monter une agence de notation, c'est un sacré boulot. Hein, parce qu'il faut monter une base de données, il faut être connu, etc. Vous avez peut-être vu que les Européens, qui sont particulièrement agacés, en plus comme c'est des agences américaines, essayent de monter une agence publique de notation européenne. Je crois que c'est un bon projet, mais il ne faut pas s'en sous-estimer la difficulté. Parce que le jour où on aura créé entre États européens une agence publique de notation, ce n'est pas pour ça que les emprunteurs se précipiteront en disant « on croit à votre note hein, ». Il faut qu'une agence elle soit crédible. Et donc qu'elle soit ressentie comme indépendante, appuyée sur toute une base technique. Enfin, ça prend du temps. Voilà, je n'ai pas de solution miracle. Je crois que ça fait partie des solutions à la crise, mais que comme tout pouvoir, de toute façon, il ne faut pas qu'il soit absolu.
Je voulais vous dire simplement, pourquoi est-ce que seulement les copies européennes sont prises en compte et non les copies à niveau mondial ? Pourquoi des pays endettés comme le Japon ou les États-Unis ne sont pas notés par leurs propres agences ?
Alors, ils le sont. Ils le sont. Les États-Unis sont triple A chez Moody's et Standard & Poor's. Il se trouve simplement que les États-Unis ont une telle domination au cœur du système qu'ils sont considérés comme à l'abri du risque de faillite, ce qui est d'ailleurs probablement objectivement vrai. Hein. Ça restera considéré, y compris par les épargnants chinois, comme le pays le plus sûr de l'épargne mondiale. Alors, quand les États-Unis font des bêtises, ils le payent quand même un peu sur leur taux d'intérêt. Mais ils sont aussi notés. Le cas des Japonais est différent. C'est qu'il se trouve que les Japonais, eux, ils se financent eux-mêmes. Ils sont restés un peu à l'écart de ce système mondial. On ne le sait d'ailleurs pas, mais les Japonais, c'est le pays qui a la plus forte dette publique. 220% du PIB. Alors qu'en France, on est à entre 80 et 90, ce qui est déjà beaucoup trop. Vous vous rappelez que le critère de Maastricht, c'était 60. Mais il se trouve que les Japonais sont des épargnants massifs, population assez âgée. Ils épargnent beaucoup et ils prêtent à leur propre État. Donc là, ça fonctionne en boucle. Il y a beaucoup d'épargne, beaucoup de dettes, mais ils recyclent sur eux-mêmes. Ce n'est pas une économie très dynamique pourtant. Mais, bon, et puis, ils ont cet énorme problème du tremblement de terre auquel ils font face avec un courage et une solidarité incroyable. Je crois qu'ils nous donnent des vraies leçons de vertu. Voilà pour les agences de notation. Alors, je viens à votre question qui me touche. Non, mais on y reviendra peut-être après, parce que je ne veux pas qu'on parle que des agences de notation pour les moins spécialistes. Alors, votre question sur les crédits revolving et le surendettement. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Moi, j'ai dirigé pendant 5 ans une société de crédit qui s'appelle CTLM. Crédito, le petit bonhomme qui va. Donc, votre question, voilà, je la prends et on me l'a souvent directement posée. Ce que je veux vous dire là-dessus, je vais essayer de le dire avec nuance, c'est que le crédit, c'est comme beaucoup d'activités. Je crois qu'elle a un cœur qui est extrêmement utile parce qu'elle permet aux gens de réaliser ses projets. Le crédit à la consommation, il permet aux gens d'acheter leurs automobiles, leurs équipements, de réaliser toute une série de projets en complément du crédit immobilier. Et puis, il a sa zone d'excès. Les crédits de surendettement dont vous parlez, je vous donne les chiffres pour cette LM. Je ne les connais pas pour les autres sociétés. Ça représente à peu près 2% du total des crédits. J'ai beaucoup poussé, quand j'étais dirigeant de cette LM, je ne le suis plus depuis 2 ans et demi, ce que nous avons appelé le crédit responsable, avec deux impératifs qui étaient forts. Oui au développement du crédit, parce que je crois que c'est utile pour les projets des gens, pour la croissance et pour l'emploi, et non au surendettement. Et ça, ça inclut toute une série de dispositifs de prévention. Nous avons refusé à cette LM une demande de crédit sur 3, et nous l'avons revendiqué dans des publicités. Là, pardon, je vais être assez précis sur la publicité, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le petit bonhomme qui s'appelle Crédito, le petit bonhomme vert, là, et un film qu'on a appelé le film Batterie, c'était il y a quelques années, où un client veut acheter un premier instrument de musique, et là, Crédito l'aide à financer parce que ce projet est bon et finançable, puis il veut en acheter un deuxième, et là, Crédito lui dit non. Et nous avons revendiqué le pouvoir de dire non. Ce qui, je peux vous dire, a été un débat interne dans la boîte extrêmement fort avec nos commerciaux. En disant, écoutez, nous, on est là pour vendre du crédit, donc si vous êtes là pour expliquer qu'on refuse, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a tenu bon, et on a dit, c'est parce que nous expliquerons que nous disons non quand nous estimons qu'il y a trop de risques, que quand nous disons oui, les gens pourront nous faire confiance. Alors, il se trouve, je ne veux pas non plus être trop long là-dessus, que la plupart des 2% de dossiers de surendettement dont vous parlez, et qu'évidemment vous voyez, et c'est ceux-là qu'on voit, qui sont extrêmement pénibles, la plupart tiennent à un changement de situation entre le moment où le crédit a été accordé, parce que je vous promets qu'on essaye de voir le plus sérieusement possible la capacité de remboursement de la personne, et puis le moment où surgissent les difficultés de paiement. C'est ce qu'on appelle les accidents de la vie, le divorce, le chômage, quand il n'y a pas d'assurance, la maladie. À ce moment-là, on essaye de voir le plus précisément, le plus humainement possible, ce qui peut être remboursé, ce qui doit être abandonné, etc. Mais je vous accorde, c'est des cas très douloureux. Je ne prétends pas avoir de réponse parfaite là-dessus. La seule assurance que je vous donne, c'est que je crois que le métier fait de façon professionnelle, c'est d'essayer de bien financer les 98, parce que ça, c'est un service rendu, et de réduire le plus possible les deux à l'avance, et ensuite, pour les cas qui se produisent malheureusement, de les traiter le plus humainement possible. Et si vous voulez, on pourra peut-être en reparler après, s'il y a tel ou tel cas auquel vous pensez. Alors j'ajoute, oui, pardon, précision, mais que vous connaissez sans doute, si vous connaissez bien le sujet, c'est que la loi a évolué là-dessus, et que le taux plafond des crédits revolving a été significativement abaissé. Donc je crois qu'un certain nombre d'abus qu'il y a pu y avoir, et à mon avis plutôt d'autres sociétés de crédit, maintenant ne sont plus possibles.
Moi, j'ai une question D'abord, je suis employé de banque, donc ça me touche de près. Pour être plus près de nos clients, moi, je trouve que j'ai deux choses qui me marquent. C'est un, notre présence dans les paradis fiscaux. Alors, on a fait des efforts, mais pour faire de la littérature, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère, quoi ?
On, c'est BNP Paribas ? Vous
êtes... Non, je suis à la Cité Générale, d'accord. Après, précisément. Mais nous aussi, on y est. Enfin, oui. Et nous aussi, on est en train de s'en retirer. Mais assez lentement, sauf erreur de ma part. Et puis même, voilà, nos clients ne sont pas là-bas. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Et le deuxième point, c'est un petit peu aussi votre position comme la nôtre sur les fonds propres qu'on doit allouer dans Bâle 3 sur la banque de financement et d'investissement. Voilà, est-ce que si on ne met pas ces fonds propres justement dans la banque de détail, la banque de réseau, la banque des agences que vous avez décrite au début, est-ce que ce ne serait pas mieux ? Voilà, être proche de nos clients. Et puis une idée aussi, c'est dans votre discours que j'ai bien aimé, on n'a jamais parlé de la responsabilité des actionnaires et de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise. Je pense qu'on est collectivement responsable des décisions que l'on prend, des règles internes que l'on se fixe. Et notre présence, par exemple, dans les paradis fiscaux, on en est complètement responsable. Enfin, on maîtrise complètement les choses, quoi. Voilà. Et on a parlé pas mal de la cupidité des traders, mais enfin, ils sont sous la responsabilité complète, totale de notre direction et des actionnaires dont je fais partie. Hein, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous parler aussi du projet de la taxation des produits financiers, je crois, qui est en discussion, et de l'intérêt que ça pourrait représenter ?
Je vais peut-être répondre à ces deux questions-là. C'était sur un sujet connexe ou c'est un autre sujet ?
Je peux vous donner le sujet.
Oui, vous avez évoqué effectivement que la banque achetait et vendait de l'argent. Mais vous n'avez pas parlé du pouvoir de création monétaire par le système bancaire. Et je voudrais savoir, justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce système de pouvoir de création monétaire, comment il est contrôlé aux États-Unis ?
Bon, ça fait pas mal, déjà. Il y a peut-être une chose que je voudrais dire qui est commune à la question du crédit revolving et des paradis fiscaux, même si c'est deux réalités très différentes. Et ça pourrait s'appliquer probablement à d'autres sujets. Je crois que nous avons tous à trouver l'équilibre entre notre engagement dans la vie économique avec tout ce que ça suppose de réalités non idéales et puis nos convictions et notre boussole. Et c'est un équilibre qui n'est jamais simple. Je crois que chacun de nous le vit dès lors qu'on est engagé dans le cambouis. Il y a deux risques. Il y a le risque de dire, j'y vais pas tant que c'est pas parfait. Vous vous souvenez de la phrase dont je ne sais jamais si elle est de Camus ou de Sartre, qu'on lui prêtait à propos des chrétiens, c'est « ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains bon. ». Ça c'est un premier risque. Je crois que pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, nous vivons une religion de l'incarnation et on y va, quoi. Et puis le second risque, à l'inverse, ça serait de dire il n'y a pas de problème, quoi. Donc pendant les 6 jours ou les 5 jours de la semaine. Moi, je fais ce qu'on me demande, je ne me pose pas de questions, je suis dans le monde tel qu'il est, et puis le monde tel qu'il devrait être, c'est pour ma pratique du dimanche. Bon. Alors ça, c'est la schizophrénie. Bon. C'est ce que Stéphane Green, dans ce bouquin, appelle le cloisonnement. Et je pense que c'est un vrai risque. Là, je vous rejoins tout à fait. Mais entre le risque de l'angélisme, qui serait de dire « j'y vais pas tant que ça ne me va pas », et le risque du cloisonnement, voilà, on est tous à essayer de trouver le bon équilibre. Voilà, prier avec beaucoup de modestie, l'Esprit Saint là-dessus. Je crois J'ai été influencé, comme probablement bon nombre d'entre vous, par un jésuite qui est mort maintenant, qui s'appelait François Varillon, qui a écrit... oui, c'est plutôt pour les quinquas et au-dessus, ça, parmi nous. qui a écrit beaucoup de livres sur la spiritualité des laïcs. Quoi. Et il disait, le chrétien doit essayer de vivre voilà, à la fois les pieds dans la terre et puis la tête tournée vers le ciel et les étoiles. Ou pour le dire autrement, il doit prendre toutes ses décisions à la regard de deux lumières, la lumière des événements et de la réalité, et puis la lumière de l'évangile. Alors, sur les paradis fiscaux, comment est-ce qu'on peut essayer d'appliquer ça? D'abord, alors, point d'espérance, ça c'est un vrai sujet, je ne l'avais pas cité, où très vite le G20 a permis d'énormes progrès. D'énormes progrès, c'est-à-dire qu'on a plus progressé en un an qu'en 20 ans de procrastination diverse. On a établi une liste grise où les pays pouvaient sortir du bon côté ou du mauvais, et puis quand c'était le mauvais côté, c'était la liste noire, et là tout le monde a dû couper. La liste noire doit comporter une dizaine ou une quinzaine de pays à l'échelle internationale, et en sens inverse, pour sortir de la liste grise, les pays ont dû s'engager à fournir des informations fiscales à tous leurs homologues qui les leur demandaient. Hein. Ce qui a permis d'ailleurs des accords sur la fiscalité de l'épargne en Europe. Et donc, les banques françaises, Société Générale, BNP Paribas, mais aussi les autres, ont décidé très clairement de sortir des paradis fiscaux qui restaient sur la liste noire. Alors, qu'est-ce qu'on allait y faire? Parce que c'est ça, votre question. Vous dites très bien, on en est sorti aujourd'hui. Au passage, ça n'a pas été totalement évident d'en sortir. Hein. Je vous cite un pays comme le Panama, pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière. Enfin, au Panama, il y a des Panaméens. Les Panaméens, ils travaillaient dans ces banques. Je peux vous dire qu'on a eu des incidents assez sérieux. BNP Paribas, une petite filiale au Panama, ils ont expliqué qu'on les avait très mal jugés, que c'était une mesure discriminatoire. Enfin, voilà. Il y a aussi des vrais gens dans ces pays. Mais il fallait en sortir, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on y a été? Je n'ai pas pris la décision, je ne peux pas la commenter, etc. Mais quand vous dites nos clients n'y étaient pas, ce n'est pas absolument vrai. Il y a un certain nombre d'entreprises, il y a des banques, mais il y a aussi des entreprises qui ont pu utiliser des structures dans ces pays-là. Hein. À l'époque où c'était un peu plus facile, un peu plus tentant. Bon. Alors voilà, peut-être qu'on aurait dû. Hein. Je ne veux pas trancher la question, mais... je ne suis pas là pour défendre la présence de tel ou tel dans tel ou tel pays. Mais voilà, on est dans une réalité mêlée de bons grains et d'ivraies qui est un peu compliquée. Là où je crois que nous devons appliquer notre responsabilité de dirigeant assez fortement, c'est que je pense qu'il y a une boussole qu'il ne faut plus jamais perdre. C'est que la finance n'a de sens que par rapport au service qu'elle rend à l'économie, de même que l'économie n'a de sens que par rapport au service qu'elle rend aux hommes. Cette finalité-là, ne la perdons plus jamais de vue. Donc s'il y a des activités que nous isolons, qui tournent complètement sur elles-mêmes, qui génèrent des risques assez forts, qui bouffent des fonds propres, balle 3, je fais le lien avec votre question, tout ça dans l'espoir de gains forts, là, je crois qu'il faut avoir le courage de mettre un gros warning. Et d'être prêt à dire, moi, je renonce à telle part de mes profits, tant pis, les actionnaires seront un peu moins contents, mais je leur expliquerai que je choisis un modèle de développement durable bancaire, et je crois que ça existe. Je ne dis pas que c'est facile à faire, hein. C'est plus facile de partager ça entre hommes et femmes de bonne volonté, là, ce soir, à Poitiers. Quand vous êtes dirigeant d'une banque, dans une compétition, avec des banques américaines, par exemple, dont vous savez quelles sont vos concurrentes, et qui récupéreront le lendemain ces activités que vous avez abandonnées. Le lendemain. Hein, ce n'est pas parce que vous êtes devenu vertueux que les autres vont le devenir. Voilà. Mais je crois qu'il faut être capable d'être un peu courageux, prophétique, et de dire, moi j'ai une boussole, c'est le service de l'économie et donc de mes clients, et les métiers que je maîtrise, et les trucs qui ne rendent pas de service, et les métiers que je ne maîtrise pas, je ne les fais pas. On n'est jamais dans l'ordre de la perfection, mais... Je vais vous citer un exemple auquel je suis assez sensible. Alors, je suis désolé, c'est un exemple BNP Paribas, mais BNP Paribas est présidé par un homme que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est Michel Pébrot, qui n'est pas un saint, qui n'est pas parfait, qui a sûrement fait des erreurs dans sa vie. Mais une des grandes raisons de l'admiration que j'ai pour lui, c'est qu'il a su résister à un certain nombre de modes de ce type.
Et je crois qu'il est un professionnel extrêmement respecté parce que dans les années 80, il a su dire « je résiste à la mode de financement des pays émergents ». Tout le monde s'était précipité pour aller financer les pays émergents. Toujours la même idée, profit facile. Dans les années 90, tout le monde s'était précipité pour faire l'immobilier. Il a dit « j'y vais pas ». Et dans les années 2000, beaucoup de banques s'étaient précipitées pour faire ces fameux actifs compliqués, etc., censés être à rendement rapide. Là, la finance purement spéculative dont je parlais. Et il a dit « j'y vais pas ou j'y vais très peu ». Voilà. Quand j'ai dit que les banques qui ont le mieux résisté dans la crise sont celles qui sont restées le plus fidèles à leurs fondamentaux, là, je pense que la vertu, le courage, le pouvoir de temps en temps de ne pas céder aux modes, d'être résistant, le mot « résistance » est revenu, hein, vous avez noté dans le vocabulaire de la crise. Je ne dis pas du tout que ça a été des actes héroïques, mais là, le courage, dans le long terme, a payé. Il reste, ce n'est pas toujours facile à faire chaque jour. Sur la taxation des produits financiers, je pense que vous faites allusion à un vote qui a eu lieu notamment au Parlement européen proposant, et qui a été adopté au Parlement européen, mais il faudrait que ce soit aussi adopté par les États au sein du Conseil des ministres pour devenir une loi européenne, proposant de taxer les transactions financières, hein, qui a par ailleurs été soutenue par Nicolas Sarkozy dans le cadre de sa présidence du G20. Je crois que c'est plutôt une bonne idée, parce que ça freinerait certains emballements de la sphère financière. Il y a un mais, c'est que ça ne marche que si ça s'applique, alors là, à tous. Parce que ces transactions financières, je le disais au début, elles sont au moins transatlantiques, et à vrai dire même mondiales maintenant avec la montée de l'Asie. Et si on se trouve dans un système où les transactions financières sont taxées en Europe et ne le sont pas aux États-Unis ou en Asie, le déplacement va être immédiat. Alors, on pourrait juger, ça nous ramène à la question précédente, que ces transactions financières sont inutiles et que c'est pas grave. Je peux pas dire que ces transactions financières sont inutiles. Je vous ai dit au début que la finance moderne, il y avait des tas d'aspects utiles. Donc, alors en plus, c'est très compliqué à calibrer. Hein. Les spécialistes vous diraient que soit on la met extrêmement faible, et après tout, ça change pas grand-chose. Soit on la met beaucoup plus forte et ça devient assez dissuasif et ça peut avoir des effets économiques néfastes. Donc moi je suis pour le principe, je n'en ferai pas le remède central parce que je pense qu'il est très compliqué à appliquer. Je crois beaucoup plus au renforcement des règles de sécurité sur les banques, ce qui se fait dans Bâle 3, et puis ensuite au fait que les gendarmes dans chaque pays, les fameux régulateurs hein, dont on parlait tout à l'heure, on va avoir un code de la route financier, c'est Bâle 3. Il faut qu'on ait un gendarme financier. C'est dans chaque pays la police montée, là, la commission bancaire en France, une vraie commission bancaire aux États-Unis, ça n'existe pas jusqu'à présent, qui surveille l'application des règles. Je crois beaucoup plus à cette voie-là parce que je crois à la fois qu'elle est plus efficace et plus réaliste. Mais vous voyez, je ne condamne pas l'idée, je mets un ordre. Sur le pouvoir de création monétaire par le système bancaire américain, bon, je ne voudrais pas être trop technique non plus. Qu'est-ce que c'est ce pouvoir de création monétaire? Je fais quand même une minute de technique sous votre contrôle vigilant. Parce que, on a quelquefois tendance à penser, c'est le bon sens, de dire qu'une banque, elle prend vos dépôts et avec vos dépôts, elle fait des crédits. Hein, les dépôts font les crédits, c'est ça qu'on se dit dans le bon sens. En fait, la finance moderne, ça ne marche pas comme ça. Bon. On va demander au professeur Aubin, mais je pense qu'on apprend à l'université de Poitiers que c'est les crédits qui font les dépôts, c'est-à-dire l'inverse de ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand une banque comme BNP Paribas ou comme le Crédit Agricole ou comme Société Générale vous fait un crédit immobilier, elle ne va pas d'abord vérifier qu'elle a dans ses caisses la veille au soir là, exactement ce qu'il faut. Elle vous fait l'avance et puis ensuite, elle vient voir ce qu'elle a dans ses caisses et au besoin, je le disais, elle va emprunter auprès d'autres banques la fameuse liquidité. Mais comme entre-temps, elle vous a ajouté un crédit, ben elle a ajouté de la liquidité dans l'économie. Alors on peut se dire, mais ça c'est très dangereux ce qu'il vient de nous expliquer parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire tourner la planche à billets. Là, ils font des crédits indéfiniment. Et puis s'ils mettent beaucoup trop de monnaie dans l'économie, il va y avoir l'inflation, toutes ces choses pas bien, etc. Alors heureusement, c'est surveillé. Et c'est surveillé par le fameux régulateur, le gendarme dont je parlais, qui a toute une série de mécanismes, là je ne vais pas en parler, mais qui permettent de vérifier que le rapport entre les crédits et les dépôts n'est pas trop élevé. Ces règles ont été beaucoup renforcées aussi dans Bâle 3. Et il faut que ça s'applique aussi aux États-Unis. J'arrive à votre question. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas d'énorme différence de règles entre les États-Unis et l'Europe. La principale différence, c'est que le gendarme européen a été beaucoup plus efficace que le gendarme américain. Les Américains, ils ont plusieurs gendarmes différents. Ils ne sont pas coordonnés entre eux. Il y a des trous dans la raquette. Ils ne sont pas toujours très bons. Vous vous souvenez de l'affaire Madoff ? Madoff, c'est une histoire absolument incroyable. Moi, je n'ai toujours pas compris, honnêtement. Madoff, on dit qu'il y a 50 milliards de dollars engloutis. Enfin, personne n'en sait rien. Mais en tout cas, il a trompé des masses de gens avec des sommes énormes. Et tout ça avec un schéma, mais qui est bête comme chou, je veux dire, hein, qui est le plus vieux schéma de fraude de la finance. Alors, quand on veut faire chic, on appelle ça une pyramide de Ponzi. Quand on veut être plus trivial, on appelle ça de la cavalerie. Hein. C'est-à-dire qu'il a versé des hauts rendements aux premiers investisseurs avec la trésorerie que lui versaient les investisseurs suivants. Puis un jour, mais au bout de 10 ans, quelqu'un a fini par découvrir le poteau rose, là, un des derniers, puis il n'a pas pu le rembourser. Bon. Mais enfin, ce qui est incroyable dans l'affaire Madoff, c'est qu'il avait été contrôlé 3 fois par la SEC, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, du gendarme des marchés en France, et les gars n'avaient rien vu. Bon. Hein. Donc, aux États-Unis, jusqu'à présent, le principal drame, ça a été la faiblesse du régulateur. Demain, ce qui est très important, c'est que par ailleurs, le nouveau code de la route, beaucoup plus strict, la Bâle 3, soit aussi appliqué par les États-Unis. Je vous dis, il n'y a pas aujourd'hui de différence de nature, mais demain, il faut faire très attention.
Lorsque j'ai commencé mes études d'économie, on était dans les développements de la bourse et des indices, des futurs, etc. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans des évolutions des cours boursiers liées à ce qu'on estimait qu'une entreprise qu'une entreprise allait valoir. Donc on était vraiment dans un système boursier financier qui, on peut dire, finançait une économie réelle. Même s'il y avait une dimension de pari, évidemment, sur l'évolution des sociétés. Et puis progressivement, on a fait des paris sur les variations des indices, et puis des futurs. On a fait toute une série de produits financiers qui deviennent, alors c'est peut-être ça que vous qualifiez des choses, de l'argent qui fait de l'argent. En tout cas, on s'est déconnecté, je dirais, d'un service de financement de l'économie. Alors on a fait d'autres choses. Alors on a sans doute depuis 15-20 ans fait des choses bien plus compliquées. Sans doute des génies ont inventé des produits encore plus compliqués que tous ceux que je connais. Ma question, c'est que finalement, on a l'impression que le système bancaire, par exemple dans la crise que vous rappeliez, il y a eu une crise de défiance entre tous. Donc on a réinjecté beaucoup d'argent parce que, évidemment, les banques ne voulaient plus se passer d'argent. Donc c'est les États qui ont pallié finalement ces crises de liquidité. Les États, c'est qui ? Ben c'est les dettes de nos impôts futurs, pour faire court. Hein. Aujourd'hui, on dit les banques remboursent. Alors, je ne sais pas où on en est de ces remboursements éventuels.
Ça, je vais vous dire.
Voilà, vous nous préciserez, parce que de fait, les médias n'en parlent pas. Mais au-delà de ça, on a l'impression, alors on lit, mais on a des bribes d'informations, que par exemple les profits des banques, les profits, les résultats des traders sont revenus comme avant la crise. Alors est-ce que finalement le système a quelques réformes encourageantes que vous avez soulignées près ? Est-ce qu'on n'est pas reparti un petit peu avec les mêmes risques, les mêmes fonctionnements ou les mêmes absences de régulation ou insuffisances de régulation ? Et est-ce qu'on n'est pas... Aujourd'hui, est-ce que finalement, on va pas retomber dans une crise un peu identique dans quelques mois ? Qu'est-ce qu'on a comme assurance qu'on va pas y retourner ? Et que c'est pas de nouveau les États qui vont se réendetter ? Parce que quand même, au fil du temps, on a quand même l'impression que les générations futures sont vraiment massacrées au profit de, à la fois sauver notre niveau de vie actuel, mais aussi sauver nos systèmes financiers actuels, quoi. Que finalement, d'une manière ou d'une autre, c'est vers les générations futures qu'on fait peser les difficultés. Alors, de fait, on voit quelques États où on a pris des mesures très drastiques. C'est douloureux, hein, mais on sait que à l'échelle mondiale, il y a peut-être la Grèce à vivre à très grande largeur, quoi.
vouliez poser une autre question. Attendez peut-être le micro.
Merci. Dans l'intitulé de la conférence, vous avez parlé de la finance au service des hommes. Que pensez-vous du microcrédit et éventuellement des systèmes de tontine qu'on trouve très répandus dans le tiers-monde?
Je vais peut-être répondre à ces deux. Je vais répondre à ces deux questions-là, puis je... sauf si c'est lié. Non, bon, alors, je vous redonne après. Alors, sur votre question, il y avait beaucoup de choses dans la question. Je comprends bien la question. Il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc je vais vous le dire pourquoi. D'abord, quand vous dites on s'est déconnecté parce qu'il y a eu les indices boursiers, etc., il y a eu des dérives, hein, je l'ai dit. Mais pendant le même temps, on a continué dans la finance à rendre tous ces services réels. Je peux vous dire que si on disait, par exemple, à beaucoup de grandes entreprises françaises, ou a fortiori aux États, retour arrière, on revient à la finance du début des années 80, mais ils protesteraient extrêmement violemment. Ça veut dire que leur financement leur coûterait beaucoup plus cher, ou qu'il y a une série de risques contre lesquels ils ne pourraient pas se protéger. Donc ces services réels, ils ont continué. Il y a eu des dérives au-dessus qu'il faut traiter, mais les services réels, ils n'ont pas disparu. Alors, le problème du financement des banques par les États. Alors, c'est évidemment une question importante pour vous tous comme contribuables. Si vous permettez, je m'associe à vous, pour nous tous comme contribuables. Alors, toutes les banques, aujourd'hui, sauf peut-être BPCE, hein, Banque Populaire Caisse d'Épargne, mais qui a annoncé qu'elle allait le faire, ont remboursé les avances qui avaient été consenties par l'État. Donc il n'y a plus d'argent prêté par l'État, je dis bien en France. Hein. Dans d'autres pays, ça n'est pas fini parce que, il faut bien le dire, le système bancaire français a traversé la crise beaucoup mieux que les autres pays. On avait un gendarme efficace, puis j'ai la faiblesse de penser qu'on avait des banques à peu près professionnelles qui n'ont pas été faire des pitreries et de la poudre de perlimpinpin. Au passage, c'est une bonne nouvelle pour nous tous contribuables, l'État a gagné de l'argent. Parce qu'il se trouve que ces avances, elles étaient avec un taux d'intérêt élevé, qui était un taux de 7%. C'est d'ailleurs pour ça que dès qu'on a pu, on s'est dépêché de les rembourser, parce que ça coûtait très cher. Au niveau où sont les taux d'intérêt actuels, payer 7%, c'est très cher. Donc 2 milliards d'euros de gains dans l'opération. Donc la crise bancaire, le renflouement des banques, n'a pas coûté aux contribuables que nous sommes, ça a rapporté aux contribuables que nous sommes. Là où les États ont dû creuser les déficits et soutenir la dépense, c'est dans le soutien économique dont je parlais, les mesures keynésiennes, hein, comme disent les économistes, qu'il fallait faire, mais qui ont bénéficié à bien d'autres secteurs que les banques. Hein, quand on fait des grands travaux, et fort heureusement, légitimement, ça bénéficie aux entreprises de BTP. Quand on fait un certain nombre d'aides sociales, augmentation de primes, etc., ça bénéficie aux ménages qui sont concernés. Et tout ça était parfaitement juste. Hein. Mais je crois que c'est important de distinguer les aides aux banques qui ont été temporaires et qui sont terminées et qui ont rapporté aux contribuables, et puis le soutien à l'ensemble de l'économie, mais qui pose maintenant la question du redressement budgétaire. Alors vous terminez par deux questions, c'est est-ce que tout est reparti comme avant dans les profits des banques, dans les rémunérations des traders et en gros, est-ce qu'on a le risque que dans 6 mois, ça recommence? Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas de crise financière dans l'avenir, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je vous donne ma conviction qui est que la probabilité d'une crise est devenue beaucoup plus faible qu'avant parce que les règles de sécurité ont été énormément renforcées. Alors, sur la question des profits des banques, je vais vous citer un exemple qui est celui que je connais, c'est BNP Paribas. BNP Paribas, en 2010, a gagné autant de résultats qu'en 2007, qui était avant la crise. Donc, vous pouvez dire, c'est revenu comme avant. Simplement, entre les deux, il y avait quelque chose qui avait énormément changé, c'est que BNP Paribas a énormément renforcé son capital, ses fonds propres, dont il a besoin pour générer son résultat. Je vais vous dire les chiffres, ils sont publics. Le capital de BNP Paribas, c'était 35 milliards, considérez que c'est 1 milliard près en 2007, c'est 70 milliards aujourd'hui, doublement. Alors, tous les actionnaires calculent d'abord quelque chose, c'est par rapport au capital qu'ils ont mis dans l'entreprise, combien ils touchent sur les résultats. Ce qu'on appelle d'un barbarisme anglais, pardon, le return on equity. Ce n'est pas un terme que j'adore, mais c'est le mesure du rendement du capital pour les actionnaires.
Comme on gagne la même chose avec deux fois plus sur capital, le return on equity, en gros, il a été divisé par deux. Voilà. Je trouve bien que BNP Paribas gagne de l'argent. C'est un facteur de solidité parce que ça permettra de prêter davantage de mains. Dans la banque, hein, c'est une particularité de ce métier. Votre capacité à prêter, c'est les fameuses règles de sécurité Bâle III. Le volume de crédit que vous pouvez faire aux ménages, aux entreprises, ça dépend directement du capital que vous avez. Donc quand vous faites des résultats supplémentaires pour BNP Paribas, on en distribue un tiers seulement aux actionnaires et les deux tiers, on les met pour renforcer le capital de la banque et pouvoir prêter davantage de mains. Donc je trouve bien que BNP Paribas gagne de l'argent et entre nous, je trouve plutôt bien que le rendement pour les actionnaires ait diminué parce que c'était trop élevé. Sur les bonus, bon, j'ai dit que ça avait diminué, en tout cas dans ce qui était versé immédiatement. Comme on est entre nous, je vous donne mon sentiment, je trouve que ça n'a pas diminué assez. Et là, j'aimerais vraiment que les Américains nous aident, parce que c'est d'abord une industrie, la concurrence est extrêmement forte avec les banques d'affaires américaines. Je ne vous cache pas que pour une banque comme BNP Paribas, mais j'imagine que c'est la même pour les autres banques françaises, soit on décide qu'on se retire complètement de cette activité, et comme nos clients ont besoin de la finance moderne, ben ça veut dire que les grandes entreprises, elles iront demander ça aux banques américaines. C'est un choix possible. Je ne dis pas qu'il est impossible, mais voilà, on est dans des choix un peu difficiles. Soit si on reste dans le match, là, à continuer, ben il faut quand même qu'on paye nos joueurs moins que les banques américaines. Hein, on paye beaucoup moins que les banques américaines, mais de façon à ce qu'ils restent sur le terrain, parce que sinon, ils passent dans l'autre équipe. Voilà, c'est des compromis pas très faciles. Je vous donne un sentiment personnel. J'aimerais que ça aille plus loin. Mais la clé, c'est qu'il y ait vraiment une révolte de l'opinion publique américaine contre les bonus à Wall Street. Je fais court, mais c'est vraiment ça le sujet. Alors, on termine par un point d'accord, c'est sur les générations futures. Là, je crois que nous avons un vrai sujet. Nous tous, pas seulement dans cette salle, nous tous comme citoyens français. C'est une facilité dont on a abusé avant même la crise. Il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire. On avait des déficits trop élevés avant la crise. On avait une dette qui montait avant la crise. Alors malheureusement, la crise a beaucoup amplifié ça pendant 3 ans. Mais d'une certaine façon, nous avons transféré la charge d'une partie de notre niveau de vie à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Et donc, nous avons fait un très grand arbitrage générationnel. Voilà, bon, je fais partie maintenant des quinquas et plus, donc je suis solidaire de tous ceux qui ont profité de cette dette, et moi aussi. J'aimerais qu'un jour, dans le débat politique, arrive cette question. C'est une question de développement durable. Là, je suis tout à fait d'accord avec la fin de votre question. On ne peut pas continuer comme ça. Et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que dans un pays qui vieillit, je fais une toute petite considération de sociologie politique, eh ben, il y a de plus en plus d'électeurs qui sont quinca et plus, donc qui ont plutôt intérêt à pas trop couper le niveau de vie maintenant pour s'occuper des générations suivantes. Bien sûr, on aime tous nos enfants, petits-enfants ou nos neveux, etc. Mais enfin, de là à se dire, surtout pour les enfants et petits-enfants des autres, je vais couper dans mon niveau de vie à moi, ça suppose voilà, une charité éclairée, pratique, durable. Voilà, ben on verra s'il y a des candidats qui nous proposent de l'exercer. Mais je crois que c'est une dimension extrêmement importante du débat politique. Ce problème a été amplifié par la crise financière, mais il était né avant et maintenant il faut qu'on le traite. Voilà, c'est un vrai problème de solidarité intergénérationnelle. Sur la question du microcrédit, j'espère beaucoup, comme vous, qu'il peut se développer, y compris en France. Je suis administrateur de l'ADI, que vous connaissez sans doute. L'ADI, c'est Maria Novak, qui vient de passer la main, d'ailleurs, comme présidente de l'ADI, l'association pour le développement de l'insertion par l'économique, qui aide à partir d'un système de microcrédit qui a aidé depuis l'origine plus de 50 000 chômeurs qui ont créé leur entreprise. C'est absolument magnifique. Il y a aussi France Initiative. Enfin, il y a plusieurs associations de ce type. Comme vous l'avez dit, c'est encore plus développé, notamment dans les pays du Sud. L'exemple le plus connu, c'est le Bangladesh, Grameen Bank et Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix. Il se trouve qu'il a malheureusement des ennuis assez sérieux avec le gouvernement de son pays là depuis un mois. Je peux vous raconter, moi, un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière publique. Je me suis retrouvé... Oui, Christian Aubin a oublié de vous avouer. Alors, au fur et à mesure que progresse la soirée, je vous avoue des défauts supplémentaires.
J'ai fait presque encore pire que tout ce que je vous ai avoué jusque-là, c'est que j'ai été directeur général des impôts. Et à l'époque, j'avais l'habitude de me présenter en disant « Voilà, je fais le job le plus impopulaire de France ». Mais il se trouve que je me suis permis une fois une petite escapade. Il y avait un congrès des directeurs des administrations fiscales francophones. À l'époque, c'était plus paisible qu'aujourd'hui. Et ça se passait au Mali. Et donc à Bamako. Et pendant les travaux du congrès, je dois avouer que je me suis éclipsé pendant une demi-journée. Et j'avais demandé à ce qu'on m'organise une rencontre avec une réalisation de microcrédit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans un pays d'Afrique ou autre, ou si c'est arrivé à certains d'entre vous. J'ai passé, je dois dire, une des plus belles après-midi de ma vie. Il y avait une quarantaine de femmes qui étaient là dans un faubourg de Bamako avec leurs belles robes et qui racontaient toutes en bambara, langue que j'avoue je ne parle pas couramment, leur projet de microcrédit, comment elles avaient fait un petit projet de culture vivrière, un petit commerce, une teinturerie, etc., grâce à l'argent des autres, hein, des 39 autres du groupe. Et puis, au fur et à mesure, des produits de leur commerce, elles remboursaient et ça marchait magnifiquement. En France, on n'est pas tout à fait à ce système de solidarité proche. En fait, l'ADI, c'est un peu plus indirect. C'est-à-dire que l'ADI recueille des financements d'autres et puis va aider un certain nombre de chômeurs à créer leurs entreprises. Mais ça se développe quand même de façon assez magnifique. Donc tout ce qu'on pourra faire pour développer le microcrédit, c'est très bien. Je crois simplement que ça restera forcément quelque chose qui est en complément, qui est aux marges par rapport aux services de financement que doit rendre le système bancaire. Voilà, je le dis, je ne crois pas à un système où le microcrédit, où tous les prêts qu'on se ferait entre nous remplaceraient le rôle central du système bancaire. Je crois que ça peut être un complément auquel les banques participent d'ailleurs assez activement. Je peux vous dire que nous, BNP Paribas, on finance beaucoup l'ADI. Il y a un certain nombre de salariés ou de retraités de BNP Paribas qui sont bénévoles à l'ADI parce qu'ils apportent leur savoir-faire. Voilà, je crois que c'est une façon dont nous pouvons aider activement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être d'abord ceux qui en ont pas posé, si ça vous ennuie pas. On va doucement vers la fin, d'ailleurs. Donc on va prendre...
Pouvez-vous nous dire ce qu'est pour vous la finance virtuelle ? Parce que vous avez parlé beaucoup de réel, des entreprises, l'économie. Mais qu'est-ce que c'est que la finance virtuelle ? Et est-ce que... trader et virtuel, il n'y a pas quelque chose, une petite analogie entre les deux?
Un peu dans le même sens, la valeur de la bourse comporte une valeur virtuelle qui est énorme. Est-ce que ça n'a pas une influence sur l'économie? Lorsque la bourse descend de 40%, comme c'est arrivé, quelle est l'influence que ça peut avoir sur l'économie?
Vous aviez votre question quand même, avant qu'on se quitte.
Non, je voudrais savoir simplement quelles seront les nouvelles règles en ce qui concerne les marchés de gré à gré.
Joker, mais... Enfin, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'il reste une question à regret ou pas? Alors, vous faites court. Hein.
Oui, je vais faire court. C'est terrible, les économistes, ils sont bavards.
Non, juste aussi,
les crises des marchés de matières premières qui reviennent maintenant, on en a connu il y a 2 ans, ça revient... aujourd'hui, quel est votre regard sur ça? Est-ce qu'il y a besoin de régulation bancaire de ces marchés, enfin bancaire de ces marchés, quoi?
Oui, je vais peut-être prendre tout de suite les 2 dernières questions. Je vous ai dit que de temps en temps, en disant la vérité, il fallait dire ce qu'on ne savait pas ou ce qu'on connaissait mal. Je connais assez mal les sujets de vos 2 questions. Donc, sur ce qu'on appelle les marchés de gré à gré, c'est tout ce qui est en dehors des marchés organisés que sont les bourses surveillées par les régulateurs, etc. Bon, je dirais que là, la ligne générale, c'est qu'il faut essayer de les réduire.
et puis de mieux les surveiller. Je ne sais pas vous dire assez précisément les progrès qui sont faits dans ce sens. Sur les marchés de matières premières, effectivement, ce qu'on constate, c'est une volatilité très forte. Hein. Volatilité, c'est des variations de grande ampleur, avec quand même une tendance durable à la hausse, hein, au-delà des variations. On le voit sur le pétrole et les autres, dont la première explication, c'est, si j'ose dire, malheureusement, le fait que... Bon, je fais court, mais... La première explication, c'est malheureusement le fait qu'il y a beaucoup de croissance dans le monde. Ce qu'on a un peu de mal à voir, nous, de notre France. Mais la croissance mondiale, depuis 10 ans, elle n'a jamais été aussi forte à cause de la formidable montée. Et c'est quand même une bonne nouvelle sur le plan de l'humanité. La formidable montée, notamment de la Chine et de l'Inde. Bon. Et donc ces pays consomment énormément de matières premières, en achètent et font monter les prix. Ça, j'ai pas énormément de réponses à part espérer les inclure dans du développement durable progressivement, etc. Je pense qu'il y a des facteurs aggravants, mais je connais pas assez les marchés pour vous répondre, qui est que on a autorisé progressivement à un certain nombre d'acteurs purement financiers, voire purement spéculatifs, ce qui va nous amener à votre question, à venir intervenir notamment sur les matières premières agricoles. Je dis ça avec prudence parce que les avis sont partagés, hein, mais il y a un certain nombre de fonds spéculatifs, ce qu'on appelle hedge funds en anglais, qui sont venus sur des matières premières agricoles. Normalement, c'est surveillé, encadré, etc. Mais je crois que ça explique une partie des mouvements. Alors ça nous amène à votre question, qui au fond est un bon résumé de la soirée, sur c'est quoi la finance virtuelle, finalement. Bon. D'abord, ce n'est pas une expression que j'adore. C'est pour ça que j'en ai pas abusé. En tout cas, moi, j'ai essayé de vous dire honnêtement pourquoi je croyais que la finance n'était pas que virtuelle. Elle n'était pas condamnée à être virtuelle. En tout cas, la finance virtuelle, c'est pas la finance qui s'appuie sur l'électronique, etc. Je dis ça parce que dans l'invitation à la conférence, mais... Non, mais c'était pour nous provoquer tous un peu. On disait, voilà, en quelques clics, des sommes importantes voyagent virtuellement en des allers-retours successifs, et cela 24 heures sur 24, si besoin. C'est pas le fait qu'il y ait quelques clics qui fait que la finance n'était pas plus réelle quand vous payez avec votre bon vieux billet de banque qui tachait les doigts que quand vous payez avec votre clic sur Internet. Dans les deux cas, c'est de l'argent, on ne se raconte pas d'histoire. Hein. Il y a chaque année moins d'espèces dans l'économie. Enfin, on ne va pas tous dire que le retour au porte-monnaie, c'est le nouveau progrès de la finalité et de la solidarité. Hein. Par contre, je crois que la finance devient virtuelle quand elle perd ses finalités. Voilà. Moi, et donc, quand elle perd le service de l'économie et des différentes personnes ou catégories dont j'ai parlé, les ménages, les entreprises, les États. Voilà. Moi, je crois à la boussole du sens plutôt qu'à la frontière de la technique. Du coup, essayons de faire passer le trader dont vous parliez dans cette boussole du sens. Bon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants traders. Non, parce que quelquefois, ça aide. Ça m'est arrivé une fois ou deux, notamment au Bernardin à Paris. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette magnifique salle. Et on parlait un soir un peu de notre sujet de ce soir. Et puis... quelqu'un y a été assez fort en disant, mais de façon beaucoup plus agressive que vos questions de ce genre, en disant, mais comment est-ce qu'on peut admettre que nos vies dépendent de ces jeunes freluquets voilà, qui sont droits de penser ça. Et moi, je ne suis pas un défenseur inconditionnel des traders, et je n'ai pas de traders parmi les 33 000 hommes et femmes des réseaux France, et ils n'ont pas leur niveau de rémunération. Mais j'ai dit quand même, écoutez, ces traders, c'est peut-être votre fils. Et là, j'ai vu coup de chance dans la salle, il y a 2-3 mains qui se sont levées. Et tout à coup, le trader s'était incarné, quoi. Hein. C'était plus une espèce d'abstraction menaçante. C'était un jeune homme, une jeune femme qui avait fait des études, qui faisait un boulot difficile. Ça excuse pas tout, mais c'est quand même des personnes. Hein. Bon, il y a eu un certain nombre de souffrances, de chocs aussi pour ces personnes. Alors... je crois qu'on peut essayer de le faire passer dans la boussole là, du sens et de la frontière du virtuel. On va prendre l'exemple, et là aussi je vais le dire de façon très simplifiée, des produits dérivés dont je parlais tout à l'heure, qui permettent à une entreprise de couvrir son risque de change ou le risque de montée des matières premières. Ça peut être des produits assez compliqués.
J'ai pris l'exemple le plus simple, c'est couverture dollar. Mais si on prend une grosse entreprise ou même une PME, moi je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises qui sont présents dans une quinzaine de pays, qui vont souvent en Chine. Au passage, je redis mon admiration formidable, parce que quand je dois choisir entre l'entrepreneur et le trader, je choisirai quand même toujours l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur peut avoir besoin du trader, parce que pour monter une couverture de change sur la Chine, sur, je sais pas, des pays du Maghreb et sur trois pays d'Amérique latine, ça se fait pas en 2 minutes et demie. Hein. Donc là, il est sur des techniques complexes, modernes, innovantes, et il est, à mon avis, complètement dans l'économie réelle. Même si vous et moi, on n'y comprend rien. Mais ce n'est pas le fait qu'on n'y comprenne rien qui fait que ce n'est pas un service réel qui rend. Il faut simplement que les gens qui sont au-dessus de lui, eux, ils comprennent quelque chose et sachent le contrôler, parce qu'il ne faut pas, il faut pas le laisser tout seul. Le jour où ces produits un peu complexes qu'il a montés, on commence à se les échanger entre banques et à se monter des complexes de complexes. Souvent, c'est les produits au carré. Hein. Je ne suis pas un très grand spécialiste de ces produits, mais je vous cite un exemple que vous avez peut-être lu dans la presse. Il y a un des produits de couverture qui est apparu assez récemment, dans les années 2000, c'est ce qu'on appelle les fameux CDS. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, ça veut dire Credit Default Swap. Ah, je reconnais qu'à Poitiers, à 22h29, c'est... Alors qu'on doit s'arrêter à 22h30, je prends mon risque. Bon, je vous le fais simple. C'est une espèce de produit d'assurance contre le risque de défaillance d'un emprunteur. Hein? On prête à une grande entreprise, je prends General Electric aux États-Unis. Quelqu'un estime qu'il y a un risque General Electric. On peut s'acheter une police d'assurance contre le risque de défaut de General Electric. Comme General Electric est une très bonne boîte, la police d'assurance ne coûte pas très cher. Mais si vous prêtez à une boîte jugée plus fragile, je sais pas, je prends Thomson il y a quelques années en France, le CDS, il avait monté énormément, parce que c'est normal, la police d'assurance coûte plus cher, le risque est plus élevé. Jusque-là, d'une certaine façon, tout va bien. Hein. Enfin, tout va bien parce qu'on peut estimer que c'est un service qu'on rend. Bon. Mais alors, on a monté des CDS de CDS. Ça s'appelle, pour ceux qui adorent, les CDO Square. Bon. Ne me demandez pas de décrire comment ça marche, j'en sais rien. Mais là, on a un truc qui ne servait plus à rien, par contre, si ce n'est essayer de nourrir du profit sur la variation. Vous savez, ceux qui ont fait des maths, là, il y a les produits dérivés, il y a la dérivée première, après il y a la dérivée seconde, etc. Là, on était dans la dérivée énième, quand même, hein, par rapport à la fonction économique initiale. Bon, voilà, je crois que c'est ça, la frontière du virtuel. Je vous la dessine pas de façon absolue, j'essaye de donner des exemples, mais en tout cas je suis sûr qu'elle est par rapport au sens et à la finalité et pas selon la technique, et que le trader lui aussi il peut être du bon côté de la frontière. J'aimerais assez introduire le concernant aussi un principe de modération et de justice sur sa rémunération, et ne croyez pas que c'est lié uniquement au fait que j'ai été directeur général des impôts. Il peut gagner de l'argent. Je pense que son premier devoir, c'est aussi le civisme fiscal. Parce qu'après tout, une bonne façon de régler le problème des rémunérations, c'est l'impôt. Hein? Voilà. Donc il ne cherche pas à aller faire, là non plus, les pieds au mur pour trouver je ne sais quels investissements défiscalisés, exotiques. Sur la question de la variation de la valeur de la bourse. Alors vous avez raison, il y a eu des variations absolument énormes. Hein. Moi, je vous avoue que j'en suis un tout petit peu revenu. C'est-à-dire l'idée que la bourse, à tout moment, donne une valeur assez fiable des entreprises. Vous ne répétez pas ce que je viens de dire, parce que... voilà. Mais je vais le dire plus positivement. Je pense que les variations à court terme de la bourse, elles sont beaucoup trop amplifiées et elles n'ont pas beaucoup de justification économique. J'ai d'ailleurs vivement recommandé à mes collaborateurs, il se trouve que chez BNP Paribas, comme dans pas mal de grandes entreprises, la plupart des collaborateurs sont actionnaires, ce qui en soi est une bonne chose. Ça a un petit effet pervers, c'est qu'ils ont tendance à regarder la variation du cours de l'action de façon moins désintéressée. Bon. Évidemment, quand le cours de l'action baisse, je crois que vous connaissez ça, ça pèse un peu sur leur morale. Bon. Il y a eu d'immenses variations fin 2008, début 2009, et ils avaient tendance à regarder 4 fois par jour. Ils disaient « on est à moins 4,39 »,« ah non, il n'y a plus que moins 2,18 »,« oh, on est passé à plus 0,33 ». J'aurais dit « écoutez, tout ça n'a aucun sens ». J'ai posé un petit principe de management, c'est qu'on avait le droit de regarder maximum 1 fois par jour. Bon. Il y a même eu des moments, j'ai failli dire « c'est 1 fois par semaine bon. ». Pourquoi ? Parce que je crois que par contre, sur le moyen terme, vous prenez la moyenne des cours boursiers, c'est un bon instrument de mesure de la valeur des entreprises, et ça rend des grands services. Mais c'est comme tout.
plus on allonge la durée de temps, mieux c'est. Et je termine peut-être par ça, parce qu'au fond, la finance, quand vous réfléchissez sur un taux d'intérêt, j'essaye d'élever un peu au-delà simplement du prix de l'argent, c'est surtout le prix du temps. C'est que le taux d'intérêt, il fixe entre un prêteur et un emprunteur, c'est une différence de temps. C'est, quand vous êtes emprunteur, c'est de l'argent que vous n'avez pas et qu'on vous donne tout de suite. Et quand vous êtes prêteur, c'est de l'argent que vous avez, mais dont vous acceptez de vous priver pour une certaine durée en échange d'un prix du temps. Je crois que c'est assez intéressant de regarder la finance comme ça. Parce qu'une des grandes maladies de notre société, c'est le court-termisme. Et quand on veut ignorer la valeur du temps, c'est-à-dire estimer qu'on va pouvoir faire d'immenses rendements et profits dans des durées extrêmement courtes, je pense qu'on prend des risques beaucoup trop grands, je l'ai dit, mais je crois surtout qu'on perd la boussole de la finalité. Donc on peut peut-être se quitter avec ce repère simple, et puis cette espérance pour l'avenir. Visons le temps long, soyons le sel de la terre, et puis le royaume surviendra. Merci.
Merci pour cette conclusion de cette belle soirée. Je ne sais pas s'il y a pas d'annonce particulière, si ce n'est que vous êtes sans doute attendu demain à la suite du Festival Voix Publique.
On recommence ou...
Oh non, autre chose.
Demain, on parle des CDO Square, c'est à quelle heure?
Je voulais juste vous remercier vraiment vivement d'être venu passer cette soirée avec nous, parce que je sais que votre emploi du temps est certainement chargé. Et puis, je voudrais remercier aussi ceux qui nous soutiennent financièrement, les collectivités locales, et puis quelques sponsors privés qui sont ici ce soir, et sans lesquels le festival ne pourrait pas avoir lieu.